Bonjour et bienvenue sur Comic City, je suis Steve.
Et moi je suis Monsieur Onebunny. Et c'est parti pour le second numéro du mois.
Oui, le 34e épisode de Comic City. Comic City qui est maintenant en association avec Cable Chronicles. Oui, nous avons un petit partenariat entre nous où nous relayons un petit peu les infos et tout ça. Donc voilà. Mais ça ne change absolument rien à Comic City, ni à Cable Chronicles d'ailleurs.
D'accord, oui, bien évidemment. Donc on vous encourage à aller évidemment à la fois chez nous, bien entendu, mais aussi sur Cable Chronicles. Où vous découvrirez un certain nombre de news, infos sur les comics, en VO, en VF, des interviews.
Des bref, reviews aussi, des critiques.
Des critiques, il y a de tout, il y a franchement de tout. Allez-y, c'est génial. Et nous, eh ben, on est parti.
Oui, et on va commencer ce podcast avec du Marvel. Enfin, en tout cas, dans nos reviews, on va avoir du Marvel, du DC, du Avatar, mais aussi du Vertigo.
Et oui, du Vertigo aussi. Ouais. Donc c'est bien, un petit florilège.
On va faire une émission qui, normalement, si tout va bien, devrait être un peu plus courte que d'habitude, c'est-à-dire moins de 2 heures.
Voilà, ouais.
si tout va bien, normalement, ça devrait être bon, puisqu'on n'a que 6 parutions pour cette fin de mois. Mais des gros, quand même, hein.
Ouais, quand même.
Il y a du gros, en termes de nombre de pages, en tout cas, et en nombre d'épisodes.
Et pour pas déroger à la règle, on commence avec une petite salve, même une grosse salve de news.
Oui, bah puisque comme on a décidé de faire des podcasts un peu plus courts, et notamment celui-ci, puisqu'on n'a que 6 publications, on va pouvoir se laisser aller un petit peu sur les news. Et cette quinzaine dans les news, on a Jeff Lubb, qui est promu.
Ouais, qui est promu une grosse promotion, puisqu'il devient Executive Vice President Head of Television. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Steve ?
Eh bien, tout simplement, c'est une nouvelle branche de Marvel, une branche dédiée à la télévision, qui vient d'ouvrir ses portes. Comme tu le disais la dernière fois, quand on parlait de la promotion de Joe Quesada, je crois que c'était je sais plus si c'était dans un Comics Weekly ou dans un Comic City, je commence à confondre maintenant.
Je crois que c'était Comic City, mais bon. Avec toutes les news. Sans conviction, je ne sais plus.
Avec toutes les news, on commence à perdre le compte.
Toujours est-il que, ouais, je te disais qu'il allait être assez débordé, à mon avis.
Ouais, et qu'il y avait des chances qu'il délègue. Ben voilà, ça s'est pas fait attendre.
Ouais. Puisque maintenant... des nouveaux postes, donc en fait, qui sont plus ou moins des délégations de...
Bah, de ce qu'il est censé faire, quoi. Ouais. Enfin, là, c'est de la délégation de délégation, puisque Jeff Lubb va rendre des comptes à Dan Buckley, qui est, en fait, en charge de tout ce qui est animation, comics digital, etc. Qui, bien sûr, Dan Buckley va rendre des comptes à Joe Quesada.
Exactement.
C'est un espèce de petit micmac pour s'y retrouver. L'organigramme chez Marvel, ça va être aussi complexe que l'organigramme chez les mutants.
Ouais, au moins, ouais. Eux-mêmes ne savent pas, d'ailleurs.
Donc voilà, donc
qui
Jeff
Lubb... avec qui, qui est fils de qui.
Arrête, je commence à avoir des images en tête. avec Joe Quesada et Jeff Lubb.
Mon Dieu.
Donc voilà, donc Jeff Lubb va être responsable de tout ce qui concerne la télévision, comme son rôle l'indique, mais apparemment pas que, puisqu'il va s'occuper aussi de ce qui est sorti direct ou DVD en termes d'animation, donc voilà, un éventail assez large quand même. Donc, déjà, d'un côté, la bonne nouvelle, c'est que Marvel a des plans pour continuer et peut-être même revenir un peu plus sur le devant de la scène au niveau télévision. Parce qu'il en reste pas beaucoup de séries aujourd'hui qui passent à la télé. Je sais même pas si Spectacular Spider-Man est encore diffusé.
Je ne sais pas. En tout cas,
je sais pas si ça a été renouvelé ou pas.
Ouais, je sais pas du tout s'il y aura une troisième saison. J'ai vu les deux premières d'ailleurs, mais bon, ça vaut pas la série Spider-Man des années 90.
Ouais, ben voilà quoi.
Avec Luke Cage. oui, Luke Cage. Bon, bref. Ce serait bien de trouver un concurrent à Smallville, quoi. C'est surtout ça, là. Parce que, le Somebody Save Me, faut qu'il nous sauve de Smallville, un petit peu, Marvel.
Ben, c'est vrai que l'avantage d'avoir quelqu'un comme Jeff Lubb qui a travaillé sur des séries comme Heroes, comme Smallville, on va pas parler de la qualité, hein. C'est pas le sujet. Sinon, on va pas forcément dire du bien. mais il a quand même de l'expérience en ce qui concerne les séries télé, et bah, il pourrait amener vraiment un gros plus à Marvel de ce côté-là, et leur permettre de se développer peut-être dans une série live.
Ouais, on pourrait espérer donc des séries télé ou des séries encore animées de qualité, quoi. Bon voilà. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. À voir donc où ça mène. Et bah, bravo à lui quand même.
Bah, au moins, ce qui est
Bonne
sûr,
chance,
c'est
hein.
que maintenant, il n'est pas prêt de quitter Marvel, quoi.
Oui, voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire que
Donc, il
Marvel
était
le
déjà
garde bien,
exclusif. Ouais.
voilà, le garde à la maison avec cette promotion. Ça, c'est clair.
Serait-ce un peu une sorte de réponse à ce que faisait, à ce qu'a fait en fait DC le mois dernier ou il y a 2 mois, en promouvant, j'ai un doute là, en donnant une promotion, voilà, hein,
Oui.
à Jeff Jones et à Jim Lee et à
En
Danny DiDio.
promouvant, oui, Jeff Jones.
Voilà, donc je sais pas, une sorte de petite réponse. On donne des gros rôles aux créateurs qui marchent bien. J'aurais peut-être vu ça pour un Bendis en fait, plus que pour un Jeff Loeb à la rigueur, mais
Bah oui, voilà, enfin, c'est ce que j'allais dire.
quoique
J'allais
bon,
dire
ils sont
que
quasiment certains qu'il partira pas lui.
Jeff Jones, c'est quand même le scénariste star chez DC, alors que Jeff Loeb. Bon, chez Marvel, c'est pas non plus la méga star, quoi.
Bah, il fait quand même Hulk, il est sur la branche
Ouais,
Ultimate
non.
aussi. Enfin, bon, il a pas mal de gros projets quand même, mais
Il y a pas mal de gros projets qui lui sont confiés, mais il a pas les meilleures presses, quoi.
bah, pas autant que Bendis en tout cas là au niveau équivalent chez Marvel. Donc c'est vrai que, mais bon, c'est vrai que Bendis avec toutes les séries qu'il écrit, il est impossible de le voir quitter Marvel aujourd'hui. Surtout qu'en
Oui.
plus il publie Powers Volume 3 chez Icon. Donc enfin voilà, sa série à lui qui est maintenant chez Icon, donc voilà, enfin, qui est maintenant même déjà depuis le volume 2 en fait, mais donc c'est clair qu'il est il est pas prêt de partir de chez Marvel. Peut-être que Jeff Loeb a dit bon, je vais peut-être pas rester, je vais peut-être aller voir retourner voir chez DC si l'herbe est un peu plus verte. Et ils lui ont proposé ce poste-là.
Ah peut-être oui
Bon,
non mais voilà
ce
c'est
sont
ça
des
parce que je me demandais ce
suppositions,
qu'il
bien
allait
sûr.
devenir après Hulk sachant que bah là ça quand même ça sent la fin quoi la fin de run donc bon
On verra bien.
on va voir
Bien, on passe à totalement autre chose et on se rapproche de nos latitudes françaises avec le Lille Comics Festival.
oui le Lille Comics Festival qui comme chaque année aura lieu à Lille quelle surprise ce sera le
La vanne.
Oui. Donc c'est la cinquième édition cette année, déjà la cinquième édition. Ça aura lieu les 13 et 14 novembre prochains dans la salle du gymnase à Lille. On a déjà une petite liste de gens qui seraient là à Lille, je dis bien qui seraient, puisque chaque année il y en a qui au dernier moment ne viennent pas. Bon, ça dépend des emplois du temps, etc. On peut y avoir des impératifs de dernière minute. En tout cas, sont annoncés déjà G.H. Williams 3.
Ah oui, quand
Donc
même.
quand même. C'est Batgirl, par exemple.
Batwoman.
Oui, en même temps, c'est mieux.
Enfin, c'est sur Detective Comics, quoi.
Oui, voilà, Detective Comics en plus. J'ai doublement faux, c'est formidable. Il y aura Jock, The Losers, avec Andy Diggle, qui sera là également.
Sûrement par rapport à la sortie du film.
Bah, peut-être, ouais. En tout cas, il y a la team des losers, quoi. enfin. Oui.
Ouais, dit comme ça, c'est bizarre, mais
Ouais.
Losers dont on reparlera tout à l'heure dans le podcast.
Il y aura la méga star française Phil Bryans. Alors là, rien que pour Phil Bryans, faut y aller.
C'est dingue, c'est que les gens vont croire qu'on l'aime pas alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Mais
Non, mais on entend tellement parler de Phil Bryans et c'est vrai que moi je sais même pas quelle tête il a. Mais enfin bon, de toute façon, au-delà de ça, ses dessins, pour le moment, de ce que j'en ai vu, sont vraiment pas mal.
oui,
Donc
c'est vrai.
voilà. En tout cas, bonjour à lui s'il nous écoute d'ailleurs.
Ça sent le rattrapage aux branches.
J'essaye de rattraper Flip Bryans. On t'adore ici à Comic City.
Ça s'appelle en faire trop, ça.
Ouais, voilà, faudra couper maintenant.
Enchaîne.
Oui, j'enchaîne. Barry Kitson. Barry Kitson, alors j'ai l'impression qu'il vient tous les ans, lui. Il doit aimer les fricadelles et puis les baraques à frites.
Il habite peut-être en Angleterre, pas loin aussi.
Peut-être aussi, oui. Alors, il y aura sinon Phil Winslade, Stephanie Hans, Paul Renaud, Gérald Parel, Joey Quiñones, RM Guerra, et je crois que j'ai fait le tour. Ah non, Nico Henrichon aussi. Ou Henrichon. Ou Henricon. Je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs.
Aucune idée.
Voilà. Puisque bon, je ne connais pas tous les gens de la liste. Mille excuses. Et donc, bon, bah, sur le programme, on nous dit qu'il y aura des expositions, des dédicaces, des panels, des conférences, des masterclass, des animations, des concours. Voilà. Et vente de comics.
Ça fait un peu vieille voix de DJ des années 80
Oui.
là.
Voilà.
Bien,
Là,
bon
c'est tout.
bah ça laisse rêveur quoi.
Ouais, enfin, pour le moment, c'est déjà une bonne petite affiche bien sympathique. C'est quand même le festival de comics, en tout cas jusqu'à maintenant, qui a été le plus sérieux, on va dire, en France.
On verra ce que va nous donner la Comic-Con cette année, quoi.
Voilà, puisque là, quand même, il y a du lourd. Jeff Jones, Jeff Loeb. D'ailleurs, voilà, on vient de le savoir, Jeff Loeb, donc qui vient d'être promu, donc on aura les deux Mister Marvel et Mister DC.
À moins qu'ils se désistent à la dernière
dans la même
minute.
salle. Ouais, il va peut-être y avoir même une baston entre les deux.
Donc ils se désistent à la dernière minute de par ces nouvelles fonctions.
Les deux, d'ailleurs, peuvent se désister à la dernière minute.
Ouais.
Ce serait pas étonnant, on en a déjà vu qui se désistait comme ça à la dernière minute. Non, enfin, ça m'étonnerait, Jeff Loeb est quand même l'invité d'honneur, donc...
Ouais.
Ouais, donc il y a moins de chances. Par contre, Jeff Jones...
Les Américains et la France, ils savent... Voilà. Généralement, ils aiment plutôt bien, surtout Paris. Mm. Oh, Paris, c'est tellement beau.
La gare Montparnasse.
Ça, c'est moins beau déjà, mais enfin bon... c'est moins beau, la gare Montparnasse, déjà.
Ouais, non, mais je sais pas, ils connaissent tous la gare Montparnasse, je sais pas ce qu'ils vont foutre. Ah non, ils disent Montparnasse, bienvenue! Voilà. Ça, en général, ils connaissent. Enfin bon, bref.
Oui, bon, on va enchaîner. Voilà. On va enchaîner parce que là, ça va pas le faire.
Voilà. Alors, on enchaîne sur du teaser.
Oui, apparemment, une nouvelle série arrive bientôt chez Marvel. C'est vrai que c'est une news qu'on aurait pu garder pour Comics Weekly, mais vu qu'elle a été annoncée hier et qu'on enregistre donc le 29.
Oui, puis enfin c'est pas une news tellement spoilante, quoi. C'est des petits voilà. Des petits teasers, un petit peu comme quand on avait parlé de Guardians of the Globe chez Image. Bah là c'est encore des teasers où en fait
nouvelle série sur Cable qui s'appellerait Cable Chronicles.
Voilà.
Alors, c'est vrai que c'est marrant. Par rapport au site du même nom, Cable Chronicles.
Oui, bah, d'ailleurs...
Avec qui nous sommes en association. Donc voilà, un teaser pour le moment, Cable Chronicles The Quest. On verra bien ce que ça donne, puisque la série Cable s'est arrêtée aux États-Unis au
ouais,
numéro
puis,
25.
Après Second Coming, je sais pas ce qui se passe pour Cable, mais ça a sans doute un rapport en tout cas.
Voilà, donc il n'y a qu'un seul teaser pour le moment. C'est difficile à savoir ce que ça va être réellement. En tout cas, le titre est assez drôle pour nous Français, vu que nous connaissons un site du même nom. Quoi.
Oui, voilà.
Ouais. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, un seul teaser. Si d'ici la sortie du podcast, il y avait un deuxième teaser de révélé, parce que c'est vrai qu'avec Marvel, on sait jamais. Des fois, ils nous balancent des teasers tous les deux jours. Des fois, ils mettent deux semaines avant d'autres teasers. Enfin, on a la preuve avec Shadowland. On en a eu beaucoup.
Oui, oui, c'est vrai, oui.
Voilà, par exemple. Donc si jamais...
Il y avait 250, quoi. On les a pas comptés.
Pas loin, non, il y avait eu 11 de mémoire, peut-être un 12e, je sais pas. Donc si jamais il y a un autre teaser, je mettrai aussi le lien sur le site dans le minutage à côté des news. Sinon, de toute façon, je mettrai en tout cas celui-ci. Si jamais il y en a un autre d'ici la publication, je le mettrai aussi. Voilà.
Et tu as une idée, toi, sur le personnage, juste que ça pourrait cacher
c'est... Je sais pas. Il y a une lance, apparemment, donc je sais pas. Faut voir.
Peut-être un Ascani.
Peut-être, ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas entendu parler que pourquoi pas.
Bah, je sais pas, ça va peut-être revenir sur les origines de Cable.
On verra bien. En tout cas, faut voir. J'attends les prochains teasers pour avoir une meilleure idée de ce que ça peut être.
Bon, on en reparle prochainement alors.
Voilà. On passe maintenant à la partie ciné.
Oui.
Et on commence...
Beaucoup de news, hein.
Beaucoup, ouais. On commence avec Marvel qui parle de faire des mini-films d'une dizaine de minutes qui seraient projetés avant les grosses sorties au cinéma telles que Iron Man 3 ou Avengers par exemple.
Ah oui, d'accord. Donc c'est avant au cinéma par exemple. Je me rappelle quand on allait voir des films d'essai, bien souvent ils nous passaient un film, un petit dessin animé, je veux dire, pardon, de la Warner. Genre Bugs Bunny.
Un peu ce que fait Pixar par exemple. Ils mettent des mini-courts-métrages avant certains films.
Ouais, aussi, ouais.
Voilà. Bah là, ce serait à peu près ça. Donc, ce serait des vrais films et pas simplement de l'animation, qui présenteraient des personnages peu ou moins connus du grand public.
D'accord. Et est-ce qu'on a déjà une liste, alors?
Non, pas de liste pour le moment. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes pour le moment. Il y a des chances que ce soit des personnages de seconde zone, enfin, pas de seconde zone, mais en tout cas pas des grosses têtes d'affiche, des gens peut-être du genre Black Panther ou Namor ou ce genre de choses, quoi.
Bon. Déjà, il n'y aura pas Howard the Duck, puisqu'on a déjà eu le film dans les années 80, je crois.
Ouais, enfin, qui s'en rappelle?
Bah, moi.
Oui, moi aussi, mais bon. On parle du grand public, quoi, les gens lambda. On verra bien, mais je sais pas, ça peut être une bonne idée. Faut voir ce que ça peut donner. Un truc en 10 minutes, c'est vrai que c'est court, mais pour présenter un personnage, s'il y a une bonne petite scène d'action, qu'on explique un petit peu les pouvoirs et qu'on rend le personnage assez intéressant, je pense que ça leur permettra de tester, voir ce qui a de l'appel au niveau du public et peut-être d'en faire un film ensuite.
Oui, pour présenter par exemple le chef des Inhumains, là, je sais plus comment il s'appelle.
Black Bolt?
Voilà, Black Bolt, bah tu vois, pendant 10 minutes, tu vois le mec qui parle pas.
Ouais,
Il n'y a même pas besoin de sous-titres.
je suis pas sûr que ce soit franchement intéressant un
Et
personnage
puis
comme Black Bolt.
au bout d'un moment, tu vois, il y a une mouche qui passe et ça le saoule, il commence à parler, puis paf, tout explose et voilà, c'est fini.
Ouais, mais tu vois, par exemple, un personnage comme Iron Fist pourrait être sympathique à présenter.
En 10 minutes?
En 10 minutes, ouais. Ça suffit, pas besoin d'en faire plus pour
Ouais, en
faire un
fait,
appel au
des
public.
petites vignettes sur les origines, quoi. Je pense, je vois plutôt un truc comme ça.
Ouais, faut voir. Bah, je sais pas, moi, pour moi, ça se rapproche pas mal de ce que tente de faire DC dans ses derniers directs ou DVD. Notamment sur le dernier, on avait eu un petit, ce qu'ils avaient appelé les showcase.
Oui, avec John Hex, justement.
Bah, Jonah Hex, c'est pour le prochain dans Under the Hood.
Ouais.
Mais on avait eu le Spectre dans le dernier.
Ah oui, tu m'avais dit, oui.
Dans merde, le Justice League.
Oui.
Ouais, je ne retrouvais plus le nom. Donc voilà, et c'était vraiment bien foutu, et c'est vrai que ça présente le personnage, et ça peut faire un produit d'appel assez intéressant. Faut voir. En tout cas, bon, ça, c'est une bonne idée, je trouve.
Ouais, bonne initiative et
Faut voir après l'exécution, quoi, par contre.
exactement. Donc prochainement dans les salles, en tout cas.
Et bon, avec Jeff Lopp, peut-être que ce sera lui qui chapeautera ça, quoique c'est du ciné, faut voir, mais on verra bien.
On verra bien, ce sera peut-être même meilleur que le film projeté ensuite, hein.
Ça, par contre, c'est aussi une possibilité et ça risque de craindre quand même. Si
Oui,
les 10 premières
malheureusement.
minutes qui ne sont même pas le film sont plus intéressantes que le film lui-même,
Ah bah moi c'est ce qui m'arrive tout le temps, dès que je vais au cinéma, je préfère les bandes-annonces que le film, à chaque fois, mais bon. On enchaîne sur le reste de l'actu ciné, il y en a
ouais,
beaucoup.
des news casting. News casting pour Cap.
Pas des moindres, puisque Tommy Lee Jones rejoint le casting.
Ouais,
Tommy Lee
attention.
Jones qui devrait jouer donc le général qui engage Cap au fait
Ouais,
au début de son aventure.
le recruteur, ouais, c'est lui
Le
qui lui dit.
recruteur, ouais, tout à fait.
Voilà, bon, petit rôle, hein.
Voilà, un petit rôle apparemment, oui, ce serait juste pour faire une apparition, mais bon, on se souvient de sa prestation formidable, hein, je te le rappelais tout à l'heure de double face dans Batman et Robin. Non, c'était pas Batman et Robin, c'était Batman Forever.
Ouais, magnifique.
Avec une espèce de maquillage extraordinaire, on a l'impression qu'il avait un décalcomanie sur la face, c'est tout.
Si on pouvait éviter de reparler des Batman de Schumacher, ça m'arrangerait
Mais
personnellement.
non, mais c'est des chefs-d'œuvre, c'est des chefs-d'œuvre. Il y a tellement à en dire. On pourrait faire des spéciaux là-dessus d'ailleurs. Juste sur les Batman de Schumacher.
Non merci, parce que ça m'obligera à les revoir et j'ai pas envie.
D'accord. Pourtant, les répliques
Vraiment.
de Mr. Freeze.
Ouais, ah oui, surtout, oui. Ouais. Alors, quoique les répliques de Batman sont à la même image, donc. Bon. Bref, on va passer à autre chose. Ça bouge aussi du côté de X-Men First Class, avec l'annonce du rôle de Magneto, qui serait joué par Michael Fassbender, qu'on a pu voir dans Inglourious Basterds. Enfin, ceux qui ont
D'accord.
vu le film, non pas moi.
Ouais. Moi non plus, mais je vais faire comme si je l'ai vu. Ah oui, d'accord, ouais, je vois tout à fait. Ouais.
Voilà, donc bon bah faut voir. Enfin, j'ai vu sa photo. Je sais pas. Ça va faire un Magneto plus jeune, ça c'est certain. On verra. Je trouve que malgré tout, c'était Ian McKellen, je crois, qui jouait dans les films X-Men, le
Oui, enfin
Magneto.
là c'était vraiment un Magneto plus âgé, même que dans le comics, par contre, c'était tout
Ouais,
l'inverse.
mais il le faisait bien, je trouve. Je trouve qu'il avait la gueule pour faire ça. Donc.
Oui, il avait une certaine prestance et une certaine présence à l'écran, mais bon, là, voilà, faut quand même, fallait trouver quelqu'un d'autre. Alors, dans les castings improbables, il y en a un autre, c'est Doctor Strange.
Ouais.
Doctor Strange, où on nous annonce que, alors bon, c'est plutôt une rumeur pour le moment, mais Patrick Dempsey, c'est-à-dire le fameux docteur de Grey's Anatomy, pourrait donc interpréter à l'écran le Doctor Strange.
Ouais, en tout cas, il serait intéressé par le rôle.
Voilà.
Ouais. Bon, bah
Et
moi je vais y aller de mon commentaire, ce sera no comment.
voilà. Et alors par contre, deuxième chose, apparemment Marvel aurait engagé Thomas Donnelly et Joshua Oppenheimer, les scénaristes donc du nouveau Conan quoi, pour réaliser ce film. Et le budget, ce serait aux alentours de 30 millions, pardon.
30 000 dollars. Ouh!
Ouais, 30 000, 30 millions, enfin, décidément, 30 millions ou 40 millions, enfin voilà quoi, dans ces eaux-là. Il n'y a pas de budget précis, mais ce serait pas au-dessus en tout cas.
D'accord, ouais. Bah...
Donc bon.
Doctor Strange, en même temps, ça fait personnellement, ça fait des années et des années qu'on entend parler de ce truc-là, qu'on voit des rumeurs comme quoi ils ont envie de le faire, ils ont envie de le faire, ils ont envie de le faire. C'est exactement comme Ant-Man. On a autant de rumeurs sur Doctor Strange que sur Ant-Man depuis des années. Donc bah, je commencerai à y croire quand je le verrai, quoi.
Ouais, voilà.
Parce que bon, voilà, ouais, ça... franchement, ça va faire pas loin de 6 à 7 ans que j'entends parler d'une possible adaptation de Doctor Strange.
Bon, à suivre, en tout cas dans les semaines à venir.
Ouais, je dirais les mois.
Les années même.
Ouais, peut-être même. Voilà. Donc, bah, Conan, on va rester dessus, justement, tu en parlais. On a une première photo officielle de Conan, avec Jason Momoa dans le rôle de Conan. Ça le fait pas mal, hein.
Bah ouais, bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pensais que t'allais dire le contraire, justement, mais... Ouais. Moi, je trouve que c'est... Pour le moment, c'est bien parti. Enfin, en tout cas, c'est bon signe.
Faut voir si ça restera pas ridicule, quoi, parce qu'il y a de fortes chances que ça vire...
Au ridicule, ouais, mais par contre, il sort quand, justement, ce Conan? Enfin, il sortirait quand?
Je ne sais pas du tout, 2011, je crois.
Donc, à peu près à l'époque de la sortie de Thor.
Ouais, peut-être. Je sais pas. Faut voir.
On va voir, ce sera intéressant de voir si les deux sortent plus ou moins à la même période, parce que
enfin,
on pourrait concurrencer pas mal.
D'un côté, on a Kenneth Branagh aux manettes derrière Thor, donc il y a forcément plus de prestige, quoi.
Ouais, d'accord.
Je sais pas qui réalise Conan, mais c'est pas forcément quelqu'un de très connu, je crois.
Bah, les deux que je viens de citer pour Doctor Strange.
Non, mais c'était au scénario, mais
ah oui, t'as raison,
je parle
oui.
De la réelle. Enfin bon, Jason Momoa qu'on avait pu voir dans Stargate Atlantis, qui faisait le rôle de Ronan, qui fait bien la bonne brute épaisse, quoi. Et puis alors, au niveau musculaire, il a encore pris quand même. Hein.
Ouais.
Par rapport à Stargate Atlantis, il a encore pris. Donc, non, franchement, il fait un... En tout cas, visuellement, il fait un beau Conan, je trouve.
Ils auraient pu prendre Triple H aussi.
Ah ouais, Triple H en Conan, ça aurait pu le faire aussi, c'est vrai.
Puis bon, il y avait des rumeurs
de le voir avec le marteau, quoi, en plus. Donc,
Ouais, mais il y avait des rumeurs. C'était surtout, oui, Thor pour Thor il y a quelques années, mais
là, ça aurait été le choix parfait, quand même.
Ouais, mais ça a été très vite démenti. Mais c'est vrai que ça aurait été marrant de voir Triple H dans le rôle de Thor.
On verra bien. J'en attends pas grand-chose, quoi, parce que c'est quand même assez casse-gueule, faut être honnête.
Ouais, c'est clair.
Je suis pas sûr que le grand public soit forcément attiré par Conan.
On verra, on jugera déjà la première bande-annonce. On pourra se faire une idée plus précise.
Ouais. Et puis, bah, en parlant de film casse-gueule, on va annoncer quelques chiffres. Jonah Hex est sorti depuis maintenant 2 semaines aux États-Unis. Et les chiffres sont absolument pathétiques.
Trop quelle surprise.
En 2 semaines d'exploitation, il n'a réuni que 9,1 millions de dollars. Alors qu'il en a coûté 47 millions.
Ouais. Bon. Ce qui est quand même problématique.
À titre d'exemple, bon, c'est vrai que là, je vais prendre le top du box-office, Toy Story 3. Qui est sorti exactement le même jour que Jonah Hex, bon c'est sûr, la réputation n'est pas la même. Hein.
Ouais.
Et la qualité non plus d'ailleurs. A engrangé en l'espace de 2 semaines 226 millions de dollars.
Ah oui.
Voilà. Il faut dire que c'est vrai qu'il a trusté un petit peu tout le box-office, donc forcément moins de visibilité. Mais d'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup l'impression que Jonah Hex ait été vachement promu au cinéma.
Ouais, c'est vrai que j'en entends quasiment jamais parler. Et bon, bah apparemment, Megan Fox ne fait pas... Déplacer ouais. Les foules.
Bah, de toute façon, déjà, pour la date de sortie française, on n'a pas réussi à trouver. Il y aurait même des rumeurs comme quoi il y aurait une possible sortie directe en DVD, en France. Et j'ai lu des reviews par-ci, par-là, le film a l'air d'être une merde. Je peux pas dire autrement, ça a l'air d'être une merde. Absolument rien à voir avec le comics de Justin Gray et Jimmy Palmiotti.
Oui, puisque tu me disais qu'il avait des super pouvoirs.
Un Jonah Hex qui a des pouvoirs, oui, en touchant les morts, il arrive à parler avec eux, donc voilà. Je pense que ça suffit pour définir quel nanar c'est.
Ouais, je pense qu'ils se sont trompés de personnage, je sais pas.
Non mais bon, ça a l'air d'être du grand n'importe quoi, donc moi personnellement, même s'il sort au cinéma, je n'irai pas le voir, c'est certain. Voilà, c'est tout pour notre blog ciné. On termine avec du comics, mais encore dans un autre média.
Ouais.
Et c'est toi qui nous en parlais, Benny.
Ouais, on passe aux jeux vidéo puisque lors du dernier E-Cube, le 3, aux États-Unis, eh bien, il y a eu l'annonce et surtout des images enfin du Marvel vs Capcom 3. Alors en fait, il y a 10 ans de ça était sorti Marvel vs Capcom 2.
Putain, ça ne rajeunit pas. Hein. Ouf.
Qu'est-ce qui se passe?
Je dis ça nous rajeunit pas. Si le 2 est sorti il y a 10 ans,
ouais,
le premier est sorti il y a longtemps.
C'était il y a 10 ans et je m'en rappelle malheureusement très bien. Donc je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ces 10 dernières années? Pas grand-chose. Mais en attendant, voilà, donc c'était un jeu totalement délirant, un jeu de baston en 2D à l'époque encore. Enfin bon, il y avait déjà des jeux de baston 3D, mais la marque de la série, c'était la 2D. Et c'était totalement délirant, il y avait plus de 50 persos, et donc il y avait des personnages issus de Street Fighter pour le côté Capcom, et aussi par exemple l'espèce de mec de Samba de Amigo avec ses maracas, je crois, Captain Commando, Megaman, etc. Et ils affrontaient donc des personnages de chez Marvel, donc on avait Venom, Magneto, Hulk, Spider-Man, etc. C'était super fun, c'était du grand n'importe quoi, c'était du 3 contre 3, ils faisaient des prises absolument improbables, avec des personnages qui sortaient de partout, des boules de feu dans tous les sens. Enfin bref, c'était vraiment de la grosse déconnade ce jeu. Et alors là, on a pu voir le jeu en fait en live, quoi, en action. Bon alors déjà, on est toujours sur de la 2D, mais de la 2D un petit peu à la Street Fighter 4, c'est-à-dire que c'est un mélange entre de la 2D et de la 3D, quoi. C'est-à-dire
du cel shading.
Pas vraiment du cel shading non plus, c'est encore nouveau, c'est faut le voir bouger, c'est-à-dire qu'il reste sur un plan pratiquement 2D, mais tout est en 3D au fait. Et ça utilise un nouveau procédé, le MT Framework, donc au fait apparemment déjà utilisé sur d'autres jeux de Capcom. Alors bon, il y aura toujours des combats en équipe 3 contre 3, ce sera toujours un gros délire, quoi. Et parmi les personnages qu'on a déjà pu voir, donc il y a par exemple Wolverine, il y a Iron Man, Hulk, Captain America du côté Marvel, et du côté Capcom, on a Ryu, Felicia Morrigan et Chris Redfield de Resident Evil, par exemple.
D'accord.
Et Deadpool aussi, tiens, bien sûr, Deadpool, j'allais l'oublier, parce qu'il est partout, donc fallait bien qu'on le
même dans les jeux vidéo.
Voilà. Et il y aura aussi Dante de Devil May Cry. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Ça te dit rien du tout?
Absolument pas.
Bon.
je connais le jeu de nom, mais c'est tout.
Ouais, si tu le connaissais, ce personnage, tu l'aimerais bien, Steve, j'en suis sûr. Voilà.
Mais je ne suis pas un joueur console, en fait. Je suis beaucoup plus un joueur PC qu'un joueur console. Donc,
Et oui, d'ailleurs, et puis tu fais bien de me le préciser, puisque ça me permet de penser que le jeu ne sort pour le moment que sur Xbox 360 et PlayStation 3. Aucune sortie PC d'annoncée.
Bon, il y a de fortes chances qu'il n'y en ait pas.
Ouais, il y a de fortes chances, parce qu'un jeu comme ça, c'est vraiment de l'arcade.
Ah, c'est vrai, c'est vraiment destiné pour des consoles, quoi. Je me rappelle, j'avais joué au tout premier.
Tu branches ton jeu.
Ouais. J'avais joué qu'au tout premier, moi, à l'époque. C'est pour ça que je disais, ça ne nous rajeunit pas. Si le 2 est sorti il y a 10 ans, le premier est sorti il y a je ne sais combien de temps. Et...
Ah, les deux premiers sont sortis très vite, quoi, l'un derrière l'autre. Donc quelques mois après, on avait déjà le numéro 2, et je me rappelle même qu'il était sur Dreamcast et que sur les bornes d'arcade, il existait des bornes d'arcade sur lesquelles tu pouvais mettre ta memory stick Dreamcast, au fait, pour avoir les personnages, pour les débloquer, etc.
Quel est l'intérêt d'aller jouer dans une borne d'arcade avec ton propre memory stick si tu peux jouer chez toi? Pourquoi aller claquer de l'argent dans une borne d'arcade? Enfin, bon.
Pour récupérer les persos, par exemple.
Oui, mais enfin bon, si tu as des personnages sur un memory stick, c'est que tu as le jeu chez toi, donc...
Oui, non, mais je veux dire, par exemple, tu pouvais récupérer les persos qui étaient débloqués sur la borne d'arcade pour les ramener chez toi, tu vois ce que je veux dire?
Ah, d'accord. Ah ouais, dans ce cas-là, ok, je comprends. Bon, ouais. C'est vrai que dans ce cas-là, ça vaut le coup d'investir... Bon, à l'époque, c'était 5 francs la partie, je crois.
Ouais, 5-10 francs, ouais.
Ouais, bon, ça valait le coup de payer 10 balles juste pour récupérer des persos que t'avais pas.
Voilà, ouais, par exemple. Donc ouais. Bon, en tout cas, une bonne nouvelle, parce que c'était vraiment un jeu qui m'a bien fait marrer pendant des années, donc...
Un pourcentage de chance que tu le prennes lors de la sortie? 99?
Oui, t'es 99,99999, je pense que tu peux même dire. Non, je pense que le seul truc qui pourrait se passer, c'est que je me casse la gueule en rentrant dans le magasin et que je finisse dans le coma pendant quelques mois, et là,
avec,
oui.
Avec un peu de chance, tu pourras aller poursuivre et tu auras ton jeu gratos.
Voilà, ouais. Moi, ça serait toujours ça.
Tu peux m'appeler Guy les bons tuyaux.
Voilà, et exactement. Et donc, je pense que c'est vraiment un jeu que je prendrai, sachant que je ne suis pas non plus un gros gamer.
Mais moi, si, mais sur PC. Comme je disais, donc voilà,
ouais, console, plutôt du MMORPG, toi.
Ouais, enfin du RPG tout court, en fait.
D'ailleurs, on peut même préciser, en plus, qu'ils ont montré des images du fameux DC Universe, tu sais, online.
Ouais.
Donc, à surveiller aussi, on vous tiendra au courant s'il y a de...
Ok, oui, je vais le surveiller, celui-ci.
Voilà, ouais. S'il y a des nouvelles images, de nouvelles... comment dire? Enfin voilà quoi, si on en sait plus sur déjà la date de sortie.
Je suis pas trop du genre à aller acheter un jeu le jour même de la sortie, mais je ferais peut-être une exception pour DC Universe, honnêtement.
Ah, celui-là il pourrait être addictif en plus. Hein.
Ouais. De toute façon, les MMORPG par définition sont addictifs, donc. Enfin, un bon MMORPG par définition est addictif, parce que quand c'est pourri, Voilà, si c'est pourri que t'accroches pas, t'auras beau essayer, t'accroches pas, c'est pas la peine.
Donc, si dans quelques mois, vous n'avez plus de Comic City, plus de podcast, plus rien, bah, c'est que Steve est devenu accro à DC Universe et qu'il ne s'en sort pas. Voilà.
Voilà. Et je lirai mes comics dans DC Universe directement.
Ouais, voilà, c'est ça.
On pourrait
Je
peut-être
pense
même
que
faire un podcast spécial enregistré à l'intérieur du DC Universe
là,
en
t'es
arrière.
mûr pour effectivement faire du DC Universe à fond les ballons.
Donc voilà, bon bah ça conclut notre partie ultra longue de news.
Ouais, bah on va essayer de faire une partie pas ultra courte, mais en tout cas réduite de review.
Bah de toute façon, vu qu'on a déjà moins de publications, voilà, c'est pour ça qu'on s'est un petit peu laissé aller sur les news aussi. Et donc on va retrouver tout de suite, enfin on va commencer nos reviews tout de suite avec un personnage qui, lui, ne sera pas dans Marvel vs Capcom 3, puisqu'il s'agit de Batman. Donc voilà, rien que par.
Bah, qui est dans Mortal Kombat versus DC Universe, par exemple.
Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là.
Voilà. Donc bon.
Donc c'est la sortie d'un nouveau mensuel, pardon, Batman Universe numéro 1. Dans ce nouveau bimestriel, j'allais dire mensuel, ce nouveau, enfin, j'ai dit mensuel tout à l'heure d'ailleurs, ce nouveau bimestriel, bah, ce sera uniquement dédié à Batman. Hein. Donc en gros, c'est Superman et Batman, moins Superman. Voilà.
Oui, voilà. En gros, c'est que Batman, ce sera plus simple de le dire comme ça. Bon, très
Puisque
bien.
bon, Batman, Superman, c'est un petit peu baissé en qualité et Panini a décidé de nous sortir du Batman régulier, ce qui marche le mieux de toute façon, et Superman dans des hors-séries ou des albums librairies. Peut-être un possible retour en 2011, ça reste encore à voir.
Ouais.
Donc on verra
Il
bien.
bah, y en a peut-être un autre qui reviendra en 2011 ou pas, c'est justement Batman, puisque le pitch de ce premier numéro, c'est juste après Batman Rip, et donc Batman a disparu.
Oui, ce sont les épisodes 686 de la série Batman et Detective Comics numéro 853. C'est un arc en deux parties, une sorte de vieux de crossover comme un peu à l'ancienne époque de Batman quand il n'y avait que Batman et Detective. Le tout est écrit par Neil Gaiman, les dessins sont d'Andy Kubert et les dessins et l'ancrage pardon sont et de Scott Williams. Donc voilà, le titre de cet arc c'est What Happened to the Caped Crusader, qu'on pourrait traduire par Qu'est-il arrivé
Au vengeur masqué,
Ouais, voilà,
au chevalier masqué.
chevalier masqué, ouais. Et donc voilà, bah Batman assiste à ses propres funérailles. En tout cas, à ce qu'il imagine être ses propres funérailles.
Bah, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe au début. On ne sait pas si c'est lui, si s'il est vraiment là, si c'est un rêve, si c'est son imagination, s'il est drogué. Parce que moi, ça m'a rappelé directement justement les derniers épisodes de Morrison sur Batman, où Batman était enfermé dans une espèce de machine. Et
Ouais.
justement, il voyait des mondes parallèles ou des réalités alternatives un petit peu bizarres. Et là c'est vraiment le cas. Là, c'est un petit peu étrange quand même ce qui se passe.
C'est-à-dire que il assiste en fait à cette scène dans une salle, en fait c'est une espèce de veillée funèbre du corps de Batman, chose qui est déjà totalement impossible puisque de toute façon il n'y a pas de corps.
Oui, puisque au fait, il n'est pas mort. Il a juste disparu dans le temps.
Oui, et puis même ce qu'ils en ressortent, c'est un tas de cendres, enfin, si je me rappelle bien, ou quelque chose comme ça. Donc
Ouais, un
de toute
squelette, quoi, en
façon,
fait,
oui,
Superman tient un squelette.
y a plus rien, quoi, il n'y a rien à enterrer, donc enfin, pas vraiment. Donc bon, qu'il y ait une veillée funèbre avec un cercueil ouvert, déjà, voilà. Ça me fait un peu rigoler. Et on a différentes versions des personnages classiques de l'univers Batman. C'est-à-dire qu'on voit Catwoman à l'ancienne époque, on voit le Joker, et puis de toute façon, le maître de cérémonie est Alfred. Et il y a tous les ennemis de Batman comme ses alliés.
Voilà,
Tout le monde est réuni dans la même pièce.
ouais, voilà. Donc, franchement, c'est plutôt une situation
C'est-à-dire que
très bizarre.
voilà, rien qu'imaginer Commissaire Gordon dans la même pièce que des gens comme Two-Face ou le
Bah, ou même le
Pingouin
Joker qui a tué sa femme, quand
ou le
même.
Joker, voilà, c'est impossible.
Oui, exactement.
Donc voilà, bon, déjà rien que ça. Puis moi j'ai franchement pas aimé. Hein. Honnêtement,
Ouais,
voilà.
moi c'est le contraire. J'ai trouvé pas ces épisodes excellents, hein, loin de là. Puisque bon, c'est vrai qu'ils sont pas très utiles, ils font pas trop avancer l'histoire. Mais par contre, je trouvais ça sympathique, ça m'a rappelé un petit peu des anciens épisodes de la série animée Batman, où effectivement, avec le chapelier fou, l'épouvantail, Batman se retrouvait dans des espèces de dimensions parallèles, ou alors vivait des réalités enfin qui n'existent pas, quoi, justement. Et là, on voyait un peu. Enfin là, c'est un peu ça, quoi. Parce que par exemple. Il y a des trucs marrants, quoi. Il y a des trucs marrants. Par exemple, à un moment donné, enfin, chacun y va de son histoire, au fait.
Oui, en
Où,
fait, chacun raconte la mort de Batman,
voilà.
telle que lui, il l'a vue.
Voilà. chacun a sa version, et par exemple, il y a une version quand même assez délirante, où en gros, Alfred raconte que bah, il a créé lui-même tous les ennemis de Batman, que c'est au fait des espèces d'acteurs, quoi, et que Bruce Wayne, grosso modo, était devenu complètement cinglé, suite à la mort de ses parents.
Oui.
Et ben moi, j'ai trouvé cette idée quand même vachement marrante, et limite, il y aurait eu moyen de faire toute une histoire à partir de ça, quoi, à partir de cette idée. Bon, un espèce d'Elseworld.
Mais voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. L'histoire est, enfin, l'idée est pas mal, l'idée de départ est pas mal. Mais moi, franchement, voir ça dans la série régulière me fait profondément chier.
Ouais, non,
parce que déjà, on sait que Batman n'est pas mort, donc déjà, ouais. Rien que ça, ça me gave. En plus, ce sont des bonnes idées, mais il y a rien de cohérent. Tout ça ne mène absolument à rien. Pour moi, c'est juste un petit coup d'œil, un petit truc sympathique en invitant Neil Gaiman à écrire deux épisodes de Batman. Voilà. Moi,
voilà,
pour moi, ça aurait été beaucoup
un
mieux
peu,
si c'était un Elseworld ou un voilà. One Shot, n'importe, mais pas dans la série régulière.
Bah, en fait, je pense qu'ils étaient un petit peu en retard, ils avaient besoin de temps.
Mais
donc ils se sont dit, on va faire un épisode bouche-trou.
Mais je crois que le détective est sorti à la bourre, si je m'en rappelle bien, à l'époque aux États-Unis. Donc,
ouais.
Je vois pas l'intérêt.
Bon, bah, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, bon, t'as pas trop aimé, moi j'ai plutôt aimé. Bon, alors, il y a plusieurs intérêts quand même, hormis le fait que ça ne fait pas avancer l'histoire, effectivement, on a quand même du Neil Gaiman, donc bon, c'est pas désagréable à lire.
Bah, ça dépend.
Enfin, bah, la narration
ouais, enfin, moi, les dernières pages, je les trouve totalement désagréables. Bonne nuit, Batcave, bonne nuit, Dinosaure Mécanique, bonne nuit, Commissaire Gordon, bonne nuit,
oui.
Bat-Signal.
Oui, oui, oui. Moi, ça m'a rappelé, comme toi, tu les as lus en anglais, je présume.
Ouais, ouais.
Donc, c'est Goodnight,
ouais,
Gordon, Goodnight, Batcave, etc. Moi, ça m'a rappelé mes cours d'anglais en CM1 avec l'espèce d'extraterrestre ouvert Big Muzzy, là, pour ceux qui ont connu. Et voilà.
Pas du tout.
Parce qu'il y a un moment, une chanson avec un mec qui dit Good morning, Good night, etc. Et, le Good night me faisait penser à ça. Enfin,
je comprends pourquoi il l'amène dans l'histoire par rapport à ce livre d'enfant que Bruce aimait bien, etc. Mais là, sur 10 pages, voilà, ça m'a gonflé.
Ah, moi, ça m'a ramené à l'enfance, justement, grâce à ça. Mais bon.
Comme je dis,
mais
ça n'a aucun intérêt pour l'histoire, donc, et pour Batman en lui-même. Comme je dis, dans un one-shot, ça m'aurait pas gêné. Enfin, en tout cas, moins gêné. Là, que ce soit dans les séries régulières, ça me gêne vraiment beaucoup.
Bon, reste quand même quelques passages marrants. Par exemple, il y a le passage avec le Joker qui demande au portier de garder sa voiture.
Oui, voiture d'ailleurs que tous les ennemis ont façon un petit peu série des années 60. Quoi.
Ouais.
La Catwoman arrive dans sa Catwoman mobile, Two-Face dans sa Two-Face mobile et compagnie. Ça,
ouais,
c'est
très décalé, c'est très kitsch. Et puis, il faut aussi préciser que moi, j'adore les dessins aussi de...
d'Andy Kubert, ouais. Alors Andy Kubert a fait un travail sur ces numéros-là, par contre, qui est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'il en a été jusqu'à imiter le style de vieux du type Jim Aparo, par exemple, quand il faisait des histoires placées dans le passé ou suivant l'époque, en tout cas du personnage qui raconte cette histoire. Il a essayé d'imiter un petit peu le style de l'époque et ça donne quelque chose de franchement superbe.
Oui, et puis par exemple, sa Catwoman... Dans cet exemple-là, quoi, sa Catwoman est vraiment la Catwoman de l'époque. Quoi.
Ah oui, vraiment. Oui. Là, on voit même passer la Batgirl de Terre 1.
Oui, il change son style en fait en fonction des scènes. Quoi. Donc,
c'est ça. Donc là-dessus, franchement superbe.
Oui. Donc bon, tout n'est pas acheté non plus.
Je suis pas un lecteur de comics pour les dessins uniquement. Quoi.
Ouais, bien sûr. Non, mais enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment un épisode, faut le prendre vraiment comme un épisode de transition. Et puis voilà, de toute façon, le final, effectivement, est un petit peu aussi prévisible.
Ouais, un final qu'on révélera pas.
Non, voilà. Non, on va pas le révéler.
Parce que Batman, en fait, assiste à cette scène, on le voit en narrateur, mais il discute avec quelqu'un, et il découvre à la fin cette personne, qui est cette personne.
Enfin, on découvre, puisque lui, il le sait, à mon avis.
Ah non, il le sait pas, il le découvre que vers la fin.
D'accord. Mais enfin voilà, donc commencer effectivement un nouveau magazine avec ces deux épisodes, pour se mettre dans le bain, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, c'est sûr, puisque on est complètement en dehors de toute la continuité.
Oui, mais à noter que ces épisodes en plus sont des épisodes un peu plus gros, ils font une trentaine de pages chacun.
Oui.
D'où le fait qu'on n'ait que trois épisodes d'ailleurs.
Oui, en fait voilà. Et le troisième, c'est
Battle for the Crown numéro 1.
Voilà, le début.
Ouais, de qui va prendre la suite de Batman.
Voilà, là on attaque vraiment les choses sérieuses, avec
Tony Daniel au scénario et au dessin et Sandu Florea à l'ancrage. Alors, chose sérieuse, voilà.
Non, enfin aussi, oui, chose sérieuse, c'est censé être les choses sérieuses, mais bon.
Je reste dubitatif quant à l'intérêt de la chose. Voilà. Moi, c'est une mini-série que j'ai déjà lue. Bon, c'est une mini-série en trois, déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas. La deuxième et troisième partie seront publiées dans le prochain numéro, c'est-à-dire en août.
Voilà, dans 2 mois.
Bon, moi, franchement, j'avais déjà lu ça à la sortie. J'avais pas franchement accroché. La relecture non plus, d'ailleurs.
Bah, voilà, déjà, il faut dire que Tony Daniel, c'est avant tout un dessinateur. Du reste, j'aime beaucoup son style et... Enfin, moi, le Batman, un petit peu version Image, comme ça, j'aime plutôt bien. Mais là, c'est sûr qu'on voit qu'il est avant tout dessinateur, parce que sa narration est toute plate, quoi, en fait. On a l'impression de lire pratiquement une fanfiction. Donc, les idées sont pas mauvaises, mais par contre, la manière de les écrire... Enfin, voilà, quoi, il n'y a pas de style. C'est vraiment plat comme narration.
Pour parler un petit peu de ce qui se passe dedans, Gotham est en proie au chaos total puisque la rumeur comme quoi Batman a disparu et ou serait mort peut-être,
oui,
commence à se répandre et du coup les vilains en profitent. Vu qu'Arkham a été détruit, les prisonniers sont retrouvés à
Blackgate,
voilà, merci, je cherchais le nom. Et sur le chemin du transfert qui les ramène à Arkham, Black Mask les fait s'évader, tous, en leur proposant un deal. Travailler pour moi ou mourir. Qui est un deal de super vilain, quoi.
Hein. Bon, un deal honnête.
Voilà, comme d'hab, quoi.
De toute façon, on aurait accepté, nous deux, par exemple.
Oui, quand t'as pas le choix, tu acceptes rapidement. Mais surtout comme en fait, il aura injecté à tous des espèces de nanites qui les font exploser sur une simple commande vocale.
Voilà. Et Black Mask, qu'on croyait mort d'ailleurs, et qui fait son grand retour.
Et qui cherche en fait à s'opposer aux deux grands super vilains qui ont la main mise sur les gangs de la ville et qui se livrent une guerre ouverte, le Pingouin et Two-Face.
Ouais, c'est un petit peu le ce qu'on a eu dans Lord of War Games il y a quelques mois, enfin quelques années maintenant. Quelques années maintenant, sauf qu'à l'époque Batman était vivant, mais pareil, il se constituait toute une équipe de super-héros autour de lui pour affronter cette guerre des gangs, et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a plein de super-héros de l'univers de Batman qui se rassemblent pour essayer de mettre fin à ce chaos.
Voilà, donc pour ceux qui ont lu les DC Universe, le DC Universe où il y avait le dernier Titans, donc c'était pas celui qui est sorti le mois dernier, mais celui d'il y a encore 2 mois avant, je crois, on avait donc Dick Robin qui disait qu'il fallait qu'il retourne à Gotham pour aider parce que c'était le bordel et que voilà, il n'aurait plus le temps de la consacrer aux Titans et donc il quittait l'équipe.
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc voilà, et là, tous les acteurs de la vie de Batman sont réunis, on a donc Nightwing et Robin, mais on a aussi donc Oracle qui a fondé un nouveau network pour remplacer un petit peu les Birds of Prey, plus The Knight and the Squire qui sont les Batman et Robin anglais qu'on avait vu passer dans les pages des comics de Morrison.
Ils avaient fait notamment, et puis on les a vus aussi dans des DC Universe précédemment. Oui, voilà.
Ils ont fait un petit peu revenir sur le devant de la scène. Donc voilà, ils sont là aussi, ils prêtent main forte à tous les gens de Gotham pour essayer de rétablir un petit peu la situation, puisque tout le monde est débordé, quoi. Les flics en peuvent plus, Gordon en peut plus, enfin tout le monde est vraiment coincé par le bordel qui s'y passe. C'est quand même, faut être honnête, enfin la ville est en feu, voilà, enfin c'est vraiment le chaos, quoi.
Ouais, l'histoire aurait pu être sympa, mais effectivement la narration, le contraste est d'autant plus flagrant avec Neil Gaiman avant, où Neil Gaiman fait quand même quelques petites figures de style, quelques petites métaphores, enfin voilà, on voit la différence entre Neil Gaiman, la plume de Neil Gaiman et celle d'un Tony Daniel.
Ben, là le problème c'est qu'on a d'un côté une histoire qui est peut-être un peu trop onirique à l'extrême,
ouais,
et qui est limite d'une n'importe quoi par rapport à la continuité, je parle, hein,
ouais,
simplement. Mmh. Et de l'autre côté on a que de l'action.
Voilà, c'est ça, on a que de l'action et... Bon alors le seul événement on va dire c'est l'arrivée d'un espèce de nouveau Batman.
Ouais, un Batman en armure, puisque Dick refuse de reprendre le manteau de Batman, alors que tout le monde lui dit c'est à toi de le faire maintenant, il faut que tu le prennes. Lui il ne veut pas, il y a quelqu'un qui a dérobé une armure dans la Batcave, donc quelqu'un qui a quand même accès à la Batcave, et qui commence à dire voilà, je suis Batman et je vais résoudre les problèmes.
Ouais, et puis cette espèce de Batman ressemble étrangement d'ailleurs à l'un des faux Batman qu'on a vu lors du run de Grant Morrison.
Oui.
Celui avec l'espèce de masque en fer. Alors, est-ce que c'est le troisième? Puisque au fait, il y avait
Je crois que c'est
pas,
le troisième.
on n'avait pas vu le, on avait, enfin, il y en a un qu'on voyait pas, et on pensait même que c'était Batman devenu schizophrène qui se tendait des pièges à lui tout seul, quoi. Parce qu'on en avait vu deux, il y en avait un qui ressemblait à Ban, et puis celui-là, avec son masque. Et donc voilà, donc peut-être que c'est le troisième, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. En fait, voilà, c'est qui est ce nouveau Batman?
Un
Et
Batman
surtout
avec
qui?
des flingues, en tout cas.
Ouais, voilà, c'est surtout ça. C'est un Batman ultra violent. Qui est-il? Ça, enfin voilà, il y a des rumeurs qui veulent aussi que bientôt on voit le retour d'Azrael.
Mais
Alors bon,
pendant la mini-série Battle for the Curl aux States, il y avait eu une mini-série sur Azrael.
Il y avait eu plusieurs mini-séries, il me semble d'ailleurs.
Oui, il y en avait une sur Oracle aussi.
Ouais.
Plus 5 one-shots. J'ai plus les noms en mémoire. Il y en avait un sur Network, il y en avait un sur Gotham, un sur Man-Bat. Je sais plus les autres. Donc voilà. Et donc ceux-là, par contre, on ne les aura pas en français. Hein.
Non, ça c'est sûr. De toute façon, c'est pas forcément
Non,
indispensable.
Il y en avait un ou deux qui étaient vraiment pas mal quand même.
Oui, bah c'est sûr que de toute façon, comparé à. Enfin voilà, l'histoire là n'est vraiment pas transcendante et
Bah, moi, si vous voulez mon avis, la fin, c'est un peu pareil. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous hésitez et attendez que Battle for the Curl soit terminé et prenez le magazine pour Batman et Robin qui va arriver bientôt.
Oui, parce
Voilà,
que
donc
là
je
on sait
crois au 3.
effectivement où ça va. En tout cas, on s'en doute assez.
De toute façon, ce sera réexpliqué dans tous les comics ensuite. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'ai absolument pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai absolument pas aimé, mais non, franchement, c'est pas très bon, quoi. Et encore, le 1 est peut-être celui qui est le plus cohérent des 3.
Ah, je sais pas. Alors, moi, je les ai pas lus encore. Donc, je vais voir la suite. Je sais déjà plus ou moins ce qui se passe, quand même. Mais je les ai pas lus.
Ah, disons que moi, je trouve que pour un nouveau magazine, voilà, la qualité n'est pas là. Après, c'est mon goût. Voilà, je veux pas influencer personne, mais.
Malheureusement, le problème, c'est qu'il commence un nouveau magazine sur quelque chose qui est pas vraiment. Enfin voilà, c'est pas vraiment nouveau non plus, quoi. C'est il commence sur du détective et du Batman. Ça aurait été bien qu'il commence à partir de Batman et Robin, et donc à la rigueur qu'il foute cela dans les derniers Superman Batman, mais bon, ça n'a pas été possible.
Ok, bon, bah voilà, vous savez ce qu'on a pensé de ce nouveau Batman Universe numéro 1.
Bah le voilà, ce qui va sans doute devenir intéressant, mais faudra au moins attendre encore un numéro avant que ça on passe aux choses sérieuses.
Ouais, voilà, exactement. Donc, maintenant, on va pas rester là-dessus plus longtemps, et on va passer maintenant au Dark Reign Saga numéro 3. C'est la mini-série Dark X-Men The Beginning, en 3 épisodes. 3 épisodes d'une trentaine de pages, en fait, chacun. Donc, c'est pour ça qu'on a un magazine assez gros, avec seulement 3 épisodes. C'est sous forme de mini-histoires. Dans chaque épisode, il y a 3 mini-histoires, donc il y a 9 histoires au total. Et voilà. Chacune est par des auteurs différents. Mais j'ai pas noté leur nom parce qu'en fait il y avait tellement de monde que je me suis dit je vais pas passer 5 minutes à énumérer tout le monde, mais voilà, bon, pas mal de monde.
Dessinateur et auteur, hein, de toute façon différents. Enfin,
ouais,
un scénario.
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais certains reviennent sur 2 histoires ou 3 histoires, mais bon, c'est pas. C'est pas franchement ce qu'il y a de plus intéressant. De toute façon, le magazine en lui-même est totalement inintéressant.
Oui.
Donc comme je disais, une mini-histoire. Par enfin 3 mini-histoires dans chaque numéro, 9 histoires en tout. On a surtout une histoire par membre des Dark X-Men.
Voilà, en fait, grosso modo, c'est une mini-série qui s'appelle Dark X-Men The Beginning, et ça te raconte tout simplement pourquoi chacun des membres de cette équipe en fait, s'est retrouvé dans les Dark X-Men.
Voilà. Le personnage principal de cette histoire, enfin de cette mini-série en général, c'est Norman Osborn.
Voilà, c'est Norman Osborn. C'est peut-être le seul point positif, c'est que c'est Norman Osborn qui est là et il fait toujours un petit peu le show.
Moi, personnellement, je commence à en avoir marre. Mais
Oui, bien que là, ça commence à être un petit peu chiant à la longue. Et puis surtout, je sais pas, je l'ai pas trouvé spécialement inspiré non plus.
Bah, de toute façon, écrit par des auteurs différents à chaque fois, voilà. Des histoires qui font une douzaine de pages maximum.
Non, puis surtout, donc, bon, les Dark X-Men, déjà, je l'avais dit lors d'Utopia, je vois pas du tout l'intérêt des Dark X-Men. Pour moi, c'est juste totalement l'équipe inintéressante et inutile. Alors là, en plus.
Plus d'équipe actuellement, puisqu'on voit bien à la fin d'Utopia ce qu'il en reste. Dans les Dark X-Men qui restent du côté de Norman, il reste plus grand monde.
Oui, oui. Non, mais en plus, Utopia étant terminé, les Dark X-Men étant pratiquement de l'histoire ancienne, puisque j'imagine que de toute façon, après le Dark Reign, il n'y aura plus de Dark X-Men.
Il y a de fortes chances.
Et puis surtout, depuis qu'Utopia est terminé, les Dark X-Men, c'était quand même l'un des points principaux d'Utopia, quoi, de l'histoire de ce crossover. Maintenant, seulement après ça, on nous montre, au fait, les origines de l'équipe.
Ouais, super. Mais c'était l'ordre de parution américain, d'ailleurs.
Oui, non, mais super. De toute façon, même aux États-Unis, je me demande même pourquoi ils ont fait cette mini, quoi, honnêtement.
Mais la réponse, elle est simple, hein. Pour le cash, enfin, faut être honnête.
Est-ce que ça vend un truc pareil?
Je suis pas sûr. Honnêtement,
franchement, c'est vraiment le truc qui sert à rien. C'est vraiment le comics inutile du mois.
Ah oui, oui.
Même de l'année.
Alors, si vous hésitiez à l'acheter, mon conseil, vous pouvez vous en passer. De toute façon, c'est simple. Chaque mini-histoire, on va vous citer les personnages dans l'ordre. Dans l'ordre d'apparition, on a une histoire sur Namor, sur Mimic, sur Dark Beast, une sur Cloak & Dagger, une sur Weapon Omega, une sur Daken, une sur Emma Frost et Namor ensemble, une autre sur Mystique, et enfin, la dernière sur Jeanne-Marie Bobier, Aurora, Transfuge de Alpha Flight, qui est peut-être une des histoires qui m'a fait presque le plus rire.
Ouais, c'est vrai que cette histoire a été marrante, et Norman Osborn était à son meilleur là-dedans. Mais, il y a quelques histoires peut-être un peu intéressantes, on va dire celle avec Namor et Emma Frost, puisque la relation entre Namor et Emma Frost,
alors moi,
qui avait débuté... Oui, non mais d'accord, mais... Ça avait débuté dans Uncanny X-Men, il y a moyen d'en faire peut-être quelque chose d'intéressant, mais là, en tout cas, c'est pas vraiment le cas.
Ah d'accord. Daken, bon bah... Voilà,
Daken, on le voit tellement rien de nouveau sous le soleil.
Si c'est pour nous montrer que c'est quelqu'un de parfaitement cultivé, on le savait déjà, donc finalement, pareil, il a non plus pas d'intérêt.
Non mais rien de neuf du tout, quoi. En fait, c'est comme si c'était une succession de fiches, tu sais, des origines des personnages, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
C'est un peu ça. Déjà, en plus, c'est super inégal entre les histoires. Donc, il y en a certaines qui se révèlent un tout petit peu intéressantes, d'autres totalement inutiles. Par exemple, celle sur Cloak & Dagger ne sert absolument à rien. Puisqu'on savait déjà qu'ils avaient suivi un petit peu contre leur volonté, parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas trop le choix. Est-ce la peine de nous faire 12 pages pour nous redire la même chose? Non. Celle sur Mimic, pareil, sert pas grand chose, même à rien du tout.
Celle sur Weapon Omega non plus, puisqu'on.
Ça permet de rappeler un peu qui est le personnage si on voyait pas trop qui c'était.
Oui, c'est pour ça que je te disais, ça faisait un petit peu fiche, Strange, spécial origine, quoi. Genre, on te raconte l'histoire du perso à travers une espèce de scène avec Norman Osborn à chaque fois, et quel intérêt, franchement.
Mystique était justement écrite par Jason Aaron.
Alors, celle sur Mystique était peut-être l'une des plus intéressantes si elle permet de. On sait, moi j'étais étonné de la voir dans Utopia, je me dis putain Mystique mais elle est morte. Donc là voilà, c'est un petit peu un comment dire, merde je trouve pas le mot, pas un prologue justement,
un épilogue
voilà exactement à
Get Mystique sur voilà. Wolverine. Et d'ailleurs de toute façon le titre en anglais c'était Get Mystique Again, je crois, quelque chose comme ça. Exactement. Non, Get Mystique Reprise. Enfin, c'était un truc comme ça. Mais de toute façon, même dans cet épisode-là, Norman lui dit, mais Wolverine t'avait laissé pour morte dans le désert. Il lui dit, comment tu t'en sors? Elle lui dit, cherche pas à savoir. Donc de toute façon, on n'aura pas la réponse.
Non, on n'aura pas la réponse, mais au moins c'est adressé. Bon, allez. On va dire que... Parce que dans Utopia, elle arrivait comme ça, mais même sans crier gare, et personne n'était étonné. Là, au moins, on voit quelqu'un qui est étonné qu'elle revienne. Mais bon, mais de toute façon, tout ça arrive après coup, après Utopia. On aurait eu cette mini avant Utopia, d'accord. Mais avoir ça après Utopia, c'est encore plus inutile.
Ouais, mais ça nous aurait vanté la surprise de qui sont les Dark X-Men. Donc voilà pourquoi ça a été publié.
Juste après la présentation de l'équipe, tu vois ce que je veux dire? Juste après la présentation de l'équipe, durant Utopia à ce moment-là. Mais au moins, ça aurait peut-être permis de nous intéresser un petit peu plus, enfin je dis peut-être, à cette équipe.
Il aurait peut-être mieux valu faire à ce moment-là un petit backup dans chacune des parties d'Utopia.
Exactement. Donc, voilà, placer les épisodes à la fin de chaque partie d'Utopia.
Et puis le réduire en nombre de pages, parce que de toute façon, 12 pages pour chacun, c'est trop, ça sert à rien.
Ouais, et puis comme ça, voilà, on a, je sais pas combien on a eu de parties à Utopia, mais il y en avait peut-être 9. Donc on aurait eu les 9. je sais pas, ils se seraient débrouillés.
Celle sur Emma et Namor étant totalement inutile, on aurait pu s'en passer. Celle sur Daken servait à rien non plus. Donc voilà, enfin je veux dire, on aurait pu en zapper. Comme je disais, celle sur Jeanne-Marie Bobier est peut-être la plus intéressante parce que drôle, et puis parce que, d'ailleurs c'est le titre de cette mini-histoire, c'est celle qui a dit non. et qui a eu Norman à son propre jeu. Donc voilà, celle-ci était un petit peu comique quand même.
C'est vrai que c'est marrant surtout de clôturer là-dessus, puisque c'est la dernière. Mm. Voilà. Donc clôturer sur celle à qui Norman a dit non, bah voilà, c'est assez drôle, ouais, effectivement. Ça m'a un petit peu fait rire à la fin, mais ça m'a fait un peu rire jaune, parce que je me suis dit putain merde, j'ai lu 9 trucs chiants comme la mort pour rien.
Ben voilà, moi aussi, c'est exactement le même constat que j'ai fait.
Alors, autant,
super inégal et rien d'intéressant à la fin.
Voilà, autant tout à l'heure j'étais un petit peu moins d'accord avec toi sur le Batman de Neil Gaiman, autant là, honnêtement, bon, c'est à chier. Hein.
Ah, puis je me suis tapé les deux back-to-back, comme on dit en anglais, enfin voilà quoi, la suite, et pas de chance quoi.
Non, ouais, non, là.
Après Dark X-Men, j'ai enchaîné sur Batman et Detective Comics et j'ai fait ah! Voilà, donc.
Ah, bah c'est peut-être pour ça que t'as pas apprécié.
Peut-être aussi pour ça, comme je dis, c'était peut-être que j'étais dans un mauvais jour, mais bon, voilà.
Ah, non, mais parce que franchement, là, c'est vraiment terrible.
Non, économisez votre argent, achetez autre chose.
Bon, c'est tout juste bon à caler une table, quoi.
Et encore, ça serait donner de l'argent pour rien, moi je trouve.
Non, mais enfin voilà. Donc c'est vraiment inutile et pas intéressant.
Non, vraiment. Donc on va pas rester là-dessus plus longtemps, et on va passer au dernier kiosque qu'on va traiter ce mois-ci, c'est le Marvel Universe numéro 21, suite du crossover War of Kings, et on commence avec les premières parties. Alors on va les traiter légèrement dans le désordre par rapport à la publication, mais on va traiter tout War of Kings ensemble et tout Guardians of the Galaxy ensemble, plutôt faire des allers-retours entre chaque série, ce sera plus simple, même pour vous au niveau compréhension, ce sera plus simple. Donc War of Kings 3 et 4, scénario de Dan Abnett et Andy Lanning, dessin de Paul Pelletier, ancrage de Rick Megiar. Donc ce sont la mini-série principale au crossover, dont on voit les deux épisodes suivants. Et ça continue vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ça n'arrête pas d'ailleurs, il y a très très peu de moments de répit.
Il y a très très peu de moments de répit, il se passe énormément de choses. Et tu vas évidemment t'occuper de nous résumer tout ça, Steve. Vas-y.
Je me suis fait avoir. Donc on a Crystal, comme je disais en fait dès le début, qu'on sentait que certains personnages allaient modifier leur façon de voir les choses dès le premier épisode. Effectivement, on voit bien que Crystal, s'inquiète.
Christian. Ah, lapsus. Ouais,
ça a foiré. Crystal s'inquiète réellement pour les cris et pour Ronan d'ailleurs. Et oui, elle se prend vraiment d'infection pour eux et elle essaye vraiment de le défendre comme si c'était son peuple.
Oui, voilà, exactement. C'est un petit peu le vilain petit canard d'un seul coup des Inhumains. Elle se rend compte que finalement les Inhumains, bah, ils pensent un peu qu'à eux, ce qui est un peu normal d'ailleurs aussi, avec tout ce qu'ils ont subi, mais voilà, elle essaye de leur dire, de leur faire entendre raison. Peut-être que on devrait revoir notre méthode. Et bon voilà. Les Inhumains ne l'entendent pas de cette oreille en tout cas.
Oui, effectivement. Et de l'autre côté, on a l'autre personnage qu'on sentait qui allait changer, c'est Gladiator.
Ah oui, puisque... alors là, avec un beau retournement de situation.
Voilà. Lilandra, elle, avait été capturée par Vulcan dans le dernier épisode. Et plutôt que la tuer, Vulcan écoute un peu la raison et décide de l'emmener sur sa planète pour faire un grand procès public avant son exécution, de manière à ce qu'elle ne passe pas pour un martyr aux yeux de son peuple. Et que donc son pouvoir en soit renforcé par la même.
Voilà.
Et donc c'est Gladiator avec son équipe qui est chargée de l'amener sur sa planète. Et finalement, petit retournement de situation, il décide de se ranger du côté de Lilandra et d'abandonner Vulcan, en tout cas la défense est, de Vulcan.
Voilà, et puis il en profite pour pulvériser l'espèce de nouvelle grande gueule. Là,
puis bien.
Que je pouvais pas saquer, alors j'étais bien content.
Puis bien, ouais. C'est vraiment, il lui coupe la tête en deux, c'est magnifique.
Non mais limite j'ai crié de joie quand j'ai vu ce passage, quand j'ai lu ce passage avec Vulcan qui revient à ses, comment dire, à ses bons jours quoi.
Ouais.
Vulcan. En plus
Gladiator, oui.
Gladiator. Oui. Ouais. Donc voilà. Donc non franchement, franchement très très bon encore.
Et bon épisode. D'ailleurs on voit les Starjammers et les Guardians qui justement, enfin une partie des Guardians avec Rocket Raccoon notamment. La petite équipe avec Rocket Raccoon qui justement viennent sauver Lilandra et c'est à ce moment-là que Gladiator décide de retourner sa veste.
En fait, le problème, comme tu dis, c'est que Panini cette fois-ci a publié, tu vois, mélangé un petit peu les séries, donc c'est-à-dire qu'on a un épisode de War of Kings suivi d'un épisode des Guardians, suivi d'un autre épisode de War of Kings, suivi d'un autre épisode de Guardians, et du coup, je sais plus dans quel épisode se passe telle chose. Alors, je sais plus si c'est là-dedans où Rocket Raccoon menace. L'un des gardes avec un...
Ouais.
Avec un balai, quoi, finalement.
Bah maintenant, ouais, maintenant que tu me poses la question, mais je crois que c'est dans celui-ci, justement. C'est dans le 3, où il arrive avec un espèce de gros flingue.
Parce qu'en fait, c'est une illusion
Et
il
c'est dans War, il me
menace
semble.
Gladiator avec.
Il lui tire dessus d'ailleurs, mais tout ça
Voilà.
est orchestré par Moondragon.
Voilà, exactement. En fait, c'est une illusion. Puis en fait, Rocket Raccoon ne tient qu'un vieux balai. Un vieux balai dégoûtant, quoi. Et j'ai
Tout
trouvé ça
en
énorme qu'il arrive quand même à tenir
plaidant
tête à
pour sa
Gladiator
vie.
avec un balai, quoi.
Tout en plaidant pour sa vie ensuite. Ouais, mais en fait, faut peut-être pas le prendre comme ça, c'est rien.
Ouais, tu veux pas faire du mal à un animal avec une peau si douce. Regarde, touche. En plus, il lui dit touche. Et non, franchement, c'est excellent. On se marre. L'équipe des Guardians, de toute façon, sont vraiment. Enfin, c'est vraiment l'équipe incroyable, quoi. On se
C'est
marre.
comique, quoi. C'est vraiment comique.
Oui, voilà. Dès qu'il débarque, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Puis il y a
Enf...
toujours Groot avec qui dit je
Oui,
suis
ah
Groot
bah
et
oui.
qui casse tout. Enfin bon. Voilà. Ils sont vraiment excellents. De toute façon, on va en reparler avec leur propre série, mais.
Oui, qui est excellente elle aussi d'ailleurs. Ensuite, on a, on a le numéro 4 où on voit débarquer un nouveau Darkhawk. Enfin, on croit que c'est Darkhawk et finalement on apprend que c'est pas Darkhawk, mais c'est simplement un ordre qui était soi-disant au service de l'empereur des Shi'ar, mais
Ouais,
qui
alors
était
ça,
en
j'étais pas
sommeil
du tout au
depuis.
courant, moi.
Mais moi non plus, ça me dit rien du tout. Alors peut-être que c'était déjà expliqué dans le Marvel cosmique, enfin dans l'univers cosmique Marvel. Il y a quelques années, mais en tout cas, moi, ça me dit rien. Enfin, soi-disant qu'ils étaient en sommeil depuis plus de 60 siècles, donc...
Bon, en même temps, on le saura dans 2 mois, puisque dans 2 mois, sortira en français la mini-série Darkhawk.
Voilà. Et donc, cet ordre s'appellerait les Talons.
Voilà.
Voilà. Et donc, après, Lilandra décide... il retourne sur la planète de Lilandra, et elle décide de reprendre le pouvoir avec un espèce de conseil galactique qui est sur sa planète, qui rappelle un peu ce qu'on avait vu dans Star Wars épisode 1 notamment, entre autres.
Ouais.
Mais comme on voit souvent dans beaucoup de choses,
Oui, enfin,
dès qu'il y a un truc galactique avec plein de
voilà, c'est
races, il y a
toujours
une
le Haut
espèce de grand
Conseil.
conseil, voilà. Elle reprend le pouvoir, une émeute éclate, et la fin est... Waouh.
Ah oui. Oui. Non, on va pas la spoiler.
Non, non, on va pas la spoiler, on va vous laisser
On va
découvrir si
pas
vous
la
l'avez pas vu.
spoiler, mais là, ça risque de bouger encore pas mal, encore plus même qu'avant. Alors, déjà que c'était très fort, ça démarrait très fort, bah là, voilà, il va encore se passer beaucoup de choses intéressantes.
Mais au final, dans ces deux épisodes-là, on ne voit pas énormément la guerre avancer. On voit plutôt certains personnages évoluer et certains ch changements de force qui se préparent. Mais la guerre n'avance pas en elle-même.
Ouais, voilà, c'est des petits retournements de situation qui font basculer la balance d'un sens puis d'un autre, etc., etc. En fait, c'est ça, ça arrête pas de basculer en la faveur d'un camp puis de l'autre, etc. Donc c'est assez intéressant, quoi. C'est avec tous ces petites intrigues que petit à petit, bah les batailles successives, enfin la guerre avance, quoi.
Oui, parce que de toute façon, on nous explique que il doit être, je crois, si je me rappelle bien, sur 90 fronts en même temps. Enfin, au niveau des cris, des Shi'ar, ils sont sur 90 fronts en même temps. De toute façon, c'est impossible à rendre à l'image, quoi. On serait perdu de toute façon. Donc, plutôt que se concentrer sur plusieurs points de la guerre en même temps, qui ferait plus qu'une chose, c'est nous perturber, autant se concentrer sur les personnages et les faire bouger. On comprend très bien comment la guerre avance de toute façon avec ces personnages-là. En tout cas, c'est toujours écrit de main de maître, et ça, c'est excellent, quoi. On passe aux Guardians, peut-être?
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, épisode 14 et 15. Les scénaristes, c'est toujours Dan Abnett et Andy Lanning, comme toujours. Au dessin, on retrouve Brad Walker, à l'ancrage, Victor Olazaba, accompagné de l'AFC pour le numéro 15. Donc, cette fois-ci, on a une baston entre Warlock et Vulcan.
D'un côté, ouais, et
Ouais, d'un
puis de
côté.
l'autre, encore une équipe dispersée, puisque ils sont.
Ouais, avec une superbe réplique quand même de Vulcan qui montre à quel point il est taré, qui dit « Je suis l'univers
Oui, c'est vrai.
». Puisque bon,
Oui, parce
Warlock
qu'au
était
fait,
parti...
Warlock lui dit que cette guerre va déclencher un cataclysme sans précédent et que ça va être la fin de l'univers tout entier.
Voilà,
Et
bah, de toute façon c'était
Vulcan
la
lui
mission
dit...
des gardiens, d'essayer de prévenir toutes les forces en présence qu'il fallait arrêter cette guerre puisqu'elle va déchirer complètement l'univers.
Voilà, et Vulcan lui dit que c'est impossible puisque c'est lui l'univers.
Mais voilà.
Enfin, voilà. Je suis l'univers. Oui, bah, il est complètement taré de toute façon. Il est mégalomane, plus que mégalomane, quoi.
Ah oui, non, mais de toute façon, il est insupportable.
Bah ouais, mais en même temps, je trouve ça. Enfin
Ah,
voilà,
mais
quoi, il est vraiment.
c'est
Il y
un
a pas
bon
de.
méchant. C'est un bon méchant, il n'y a
Oui,
pas de
il est
doute.
vraiment parfait pour ce rôle-là, quoi. Il y a tout du con insupportable qui est super puissant, malheureusement.
Voilà.
Ce qui le rend encore plus insupportable.
Voilà, en plus, ouais.
Donc il est efficace, au fait.
Et de l'autre côté, bah, on a le reste de l'équipe qu'on n'avait pas vu dans les épisodes de War of Kings. Donc Phila, Jack Flag, Star-Lord, et j'en oublie, Mantis. Et je crois que j'ai encore oublié quelqu'un. Enfin bon, c'est pas grave, qui sont chez les Inhumains, qui essayent un petit peu la diplomatie pour leur expliquer qu'il faut arrêter la guerre. Et là aussi, ça se passe mal à cause de Phila, qui a bien changé depuis qu'elle est revenue à la vie. Enfin, depuis qu'elle a été faire ce pacte avec le dragon pour amener Moondragon.
Voilà, et donc du coup, bon, on dit quand même ce qu'elle fait.
Ah bah de toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'on va parler du 15.
Donc, voilà, donc elle prend en otage Crystal.
Et
pour
façon,
convaincre les Inhumains de se rallier à leur cause.
Bah, au moins de les écouter, puisqu'ils veulent même pas les écouter, en fait.
Oui, voilà.
Mais moi, je l'ai trouvé insupportable, Phila. Qui pense que à tuer, et elle n'écoute plus rien, elle n'écoute plus les ordres de Star-Lord, qui sont pourtant des bonnes tactiques, quoi. Et elle l'écoute même plus. Enfin, vraiment, elle est. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle disparaisse, quoi. Si elle continue comme ça, qu'elle dégage, parce qu'elle me saoule.
D'ailleurs, ce qui est toujours assez bien fait dans cette série, c'est qu'on a le droit, un petit peu à la manière d'un Secret Story, on a le droit au confessionnal des personnages où ils se confient.
Ouais, les débriefings, ouais.
Le débriefing et tout, et c'est assez, assez marrant et toujours assez bien fait d'avoir les réactions des différents protagonistes. C'est bien pensé, quoi.
Autre chose, le numéro 14 se termine par une scène qui, je trouve, est magnifique et qui m'a vraiment fait exploser de rire tout fort devant mon comic, c'est. Ce groupe de Guardians qui sont face aux Inhumains se téléportent et s'échappent. Ils sont rapatriés en tout cas sur Nowhere. Warlock s'échappe lui aussi, arrive sur Nowhere, et quand ils croient qu'ils sont tranquilles tous et qu'ils arrivent à souffler un peu, eh ben non, on a les Inhumains qui se téléportent et toute une bande qui a été qui Vulcan a ordonné de poursuivre Warlock et de le tuer, qui se téléporte aussi sur Nowhere, et donc il se retrouve vraiment au milieu avec un Star-Lord qui fait « Mais j'ai dû faire quelque chose d'atroce dans une autre vie. »
Oui.
Et ce panel m'a fait mais vraiment mourir de rire.
Oui,
et
puis il y a aussi le passage où Cosmo, hein, c'est pas,
ouais.
Je comprends pas,
ouais.
Est projeté...
C'est dans l'épisode suivant, justement, le numéro 15, où c'est la grosse bataille générale.
Ah oui, voilà, c'est dans celui-là. Alors.
C'est la bataille générale de toute façon après.
Voilà. Et donc il est projeté sur Guldor et il le prend pour Dieu.
Cette scène est magnifique. Est vraiment magnifique.
Et donc non, franchement, il y a vraiment des idées et des trucs qui sont à mourir de rire. Et franchement, ça a beau être dramatique quand même, hein, puisque c'est quand même la méga guerre. Il y a quand même des disparitions de personnages importants. Il y a toujours une touche d'humour qui fait toute la différence, et franchement ils sont super, enfin c'est vraiment une équipe super attachante, quoi, qu'on a toujours envie de suivre. Et
Lanning et Abnett sont très 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 forts, hein. sur ces séries du Marvel Cosmic, enfin ils sont vraiment vraiment en très grande forme, et ils nous donnent des épisodes magnifiques.
Ils seraient peut-être en très grande forme aussi ailleurs, le problème c'est qu'on les a collés là et que...
Ouais, mais ils écrivent vraiment, ils ont un don pour le space opéra, de toute façon, certains, l'un des deux, alors je sais plus lequel, a écrit pour des romans sur l'univers Warhammer 40 000, donc vraiment du pur space opéra, enfin voilà, ils sont habitués à ce genre d'univers, donc ça leur colle très très bien.
Par contre, je serais curieux de savoir si un jour ils seraient amenés à écrire par exemple sur les X-Men, ce serait intéressant de voir ce que ça donne,
tous les deux avaient écrit de la Légion, quand même, donc... Voilà, enfin je veux dire, ils sont aussi habitués à ce genre d'univers, quoi, notamment avec d'autres équipes. Mmh. D'ailleurs, Légion, dont on peut voir des réminiscences dans les Guardians, avec le groupe qui poursuit Warlock, et notamment, alors ça n'a pas dû être traduit comme ça, mais au moment où, dans l'épisode 15, Rocket Raccoon saute sur le mec à tête verte, que j'avais déjà dit dans l'épisode dernier, qui ressemble à Brainiac, d'ailleurs il l'appelle Brainiac. Enfin, en gros, c'est un peu genre grosse tête, quoi.
C'est
très intelligent. Mais c'est très drôle d'avoir écrit Brainiac, Rocket Raccoon, qui griffe un mec qui ressemble à Brainiac dans l'univers Marvel et qui l'appelle Brainiac. C'est très très drôle.
Ouais, mais par contre, en français, je pense que ça a été traduit justement.
Ouais, c'est normal. Tout dépend de la personne, elle a peut-être pas forcément vu
le lien.
Pareil, on a un des personnages qui ressemble énormément à un autre personnage de la Légion, mais ça c'est parce que c'était des personnages qui avaient été développés par Dave Cockrum à l'époque, qui avait aussi travaillé sur la Légion, donc voilà, à Timberwolf notamment, l'espèce de mec loup avec son collier en dents là, avec un costume qui ressemble assez proche à celui de Wolverine.
D'accord.
Voilà, c'est un personnage qu'on voit énormément dans la Légion, pareil. Donc il y a toujours des petits clins d'œil comme ça. Bon, c'est toujours assez drôle. Même si ça n'apporte rien de plus à l'histoire, bien
Non, mais en
évidemment.
tout cas, vraiment, très très bonne équipe, très très bonne série, c'est fun, il y a de l'action, il y a de l'émotion, du suspense, enfin bon, il y a tout quoi.
Et puis bah on a aussi des retours de choses très très vieilles, puisque notamment on a Warlock qui commence à changer et qui retrouve l'apparence de Magus.
Oui.
Magus de l'Infinity Saga.
Oui.
Enfin, pas Infinity, enfin toute cette période Infinity War, Infinity Crusade, etc.
Ouais. Et il y a aussi, par exemple, la réapparition de personnages que je m'attendais pas du tout à voir, et j'ai trouvé ça sympa comme clin d'œil, c'est les assassins de la famille de Rachel. Alors
Oui.
c'était dans des épisodes de d'Uncanny, justement de Claremont, à l'époque de X-Revolution, non, X-Men Reload, voilà, X-Men Reload. Donc il y a quelques années où effectivement il y avait des épisodes où la famille de Rachel était tuée par toute cette bande-là, et là de les revoir là, j'ai trouvé ça sympa parce que c'est bien de penser à vraiment à tous ces persos, quoi.
D'ailleurs, qui Rachel, sur le coup, a toutes les vieilles marques comme elle avait à l'époque, à la vieille époque des X-Men, qui réapparaissent d'un coup, quoi. Enfin, c'est,
Ouais.
y a plein de petits éléments comme ça qui font appel à la grande continuité de l'univers Marvel et qui sont disséminés là, qui, si on les connaît pas, n'apportent rien de plus, mais si on les connaît, c'est vraiment, un petit côté fun de les revoir ces petites choses-là, quoi.
Ouais, voilà, c'est vraiment, on voit qu'ils connaissent bien leur sujet et,
Ouais. C'est pas nécessaire à l'histoire, mais c'est toujours agréable. Et puis bah donc l'épisode se termine sur Starhawk Libre qui enlève Star-Lord, Jack Flag, Phyla et Bug. Et surtout, un événement qui se passe et qui risque de changer pas mal les choses.
encore
Donc
une fois. Non, mais c'est voilà, c'est que des retournements de
ils
situation en
savent
faveur de...
ménager leur fin d'épisode à chaque fois, avec des bons cliffhangers qui te donnent envie de revenir.
Mais non, mais ce qui est marrant, voilà, c'est cette espèce de guerre où d'un seul coup, un camp a le dessus, puis 5 minutes après, c'est l'autre. C'est vraiment une partie d'échecs.
Ah oui, totalement. Totalement.
Voilà. Et avec différentes factions en présence. Et bien en tout cas, c'est très très bon. Et on attend la suite avec impatience comme d'habitude. De toute façon, Marvel Universe, c'est quand même le meilleur kiosque du mois, quoi.
Ah bah oui, encore une fois. Encore une
Et
fois.
mais c'est pas
Quoique
fini.
j'avais bien aimé moi le Spider-Man, mais après, c'est une histoire de goût. Mais c'est vrai que là, de toute façon, il n'y a pas possibilité de rivaliser avec ça.
Non, puis surtout pour le prix, hein, je crois que
Oui,
c'est
en plus.
5,60. Pour 5,60, vous avez pratiquement autant
140 pages ou
qu'un
120 pages,
100%.
ouais. Peut-être même 160, ouais, je sais pas trop. Enfin bon, c'est un gros pavé à chaque fois et on en a pour son argent.
Et c'est pas terminé d'ailleurs.
Ouais, l'épisode suivant, c'est le Nova volume 4, numéro 26. Voilà, donc on a un groupe de centurions coincés sans réponse du World Mind et Nova Prime qui vient les secourir et qui leur explique que bah, le World Mind a changé. C'est
Oui.
devenu la Nova qui avait été tuée au tout début de la série Nova, dont j'ai oublié le nom. Je l'ai pas noté, donc voilà. Enfin bon, le World Mind a changé, on l'avait vu dans le dernier épisode.
Oui, c'était Ego, la planète.
Oui, la planète Ego, mais la personne qui a repris
Ah oui,
Nova.
d'accord, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, la femme, quoi. Le...
Voilà. Se reporter au Marvel Universe 20.
Voir Marvel Universe.
Ou Comic City numéro 30.
Voilà. Bah, Comic City numéro 30, c'est mieux.
Voilà. Donc, ensuite, bah, il s'aperçoit que son frère a disparu et il va partir à sa recherche. Et donc, bah, là-bas, il se retrouve face à Kibit qui est en sale état.
Voilà, ouais.
Qui a vraiment bien mangé. Et puis un tas de casques de centurions monstrueux. Enfin, il y a, je sais pas, des milliers de casques. Donc ça fait un paquet de Nova morts. Et puis au final, on a le retour du frère de Rich qui est bien vivant dans son coin en train de bah, en train d'essayer de se prendre pour un grand héros, mais je sens que ça va lui retomber dessus.
Oui, son frère, donc Robert.
Voilà.
Ça
Bon.
m'a fait marrer d'ailleurs le nom Robert, enfin je sais pas, en anglais
Bah on a
encore. Enfin,
Richard et Robert. Richard et
voilà.
Robert, voilà.
Enfin, ça s'arrête sur cette annonce, je suis Robert, et je viens t'éliminer, ou je sais plus ce qui lui sort.
Je viens t'arrêter.
Voilà. Et bah, l'épisode en fait de Nova reste sympa, mais par contre c'est vraiment extérieur à War of Kings, étonnamment.
Bah oui, en fait, il essaye de regrouper tous les Nova pour essayer de sortir de ce conflit. Et puis bah comme beaucoup de centurions avaient été recrutés par Ego, simplement en leur proposant de venir et puis en les bourrant d'endorphines pour qu'ils soient d'accord, ils essayent de renvoyer le plus de monde possible sur Terre ou là où ils ont été pris, de manière à pas les mêler à un conflit où de toute façon ils sont pas prêts. Donc c'est ce qu'il essaye de faire. Bah, le problème, c'est vrai, c'est que c'est en dehors. Et puis, bon, on n'a qu'un épisode, là où War of Kings et Guardians, on en a deux. Là, on n'en a qu'un. Et on a l'impression de lire ça super vite et qu'il se passe pas grand-chose. Bon, l'épisode est bien pourtant, hein, vraiment. Mais c'est quand même un petit peu en dessous de, notamment de Guardians.
Ouais, voilà, ça c'est un petit peu une baisse de tension, mais bon,
War
ça
of
reste.
Kings étant légèrement différent, je le considère pas pareil, quoi. Mais c'est vrai que Guardians est nettement supérieur à Nova.
Ouais, voilà, maintenant, autant Nova était vraiment bon il y a quelques temps, et là il y a une petite baisse de régime.
On va voir ce qui va se passer, hein, parce qu'il y a quand même, ils mettent, pardon, puisqu'ils sont deux, ils mettent en place de nouveaux personnages qui on sent qu'ils vont rester. Donc, faut que le cast prenne son habitude.
Ouais, mais j'espère seulement que ça va durer suffisamment longtemps pour que ça prenne, quoi.
On verra bien. On va passer au dernier petit épisode. C'est la deuxième partie du War of Kings Warrior numéro 1, dont la première partie avait été publiée dans le dernier mag. Le
Qui était
scénario, oui, qui
sur
était sur
Gladiator.
Gladiator. Voilà. Cette partie-là est sur Blastar. Le scénario de Christos Engage. Attention, le seul qui a le droit de venir dans Marvel Universe, autre que Dan Mabnett et Andy
Bah,
Lanning.
le seul qui vient partout, quoi.
Les scènes sont de Carlos Magno et l'ancrage est de Jeffrey Huett et Norman Lee. Voilà. Maintenant que le truc est fait, je te laisse parler de l'histoire si tu
Pas du tout.
veux. Bon ben
Non,
voilà,
je
en
te laisse
gros.
résumer, tu le fais tellement mieux que moi que voilà.
La flatterie ne te mènera nulle part, mon cher.
Si, si, là, elle me mènera à pouvoir me reposer 30 secondes.
Ouais, bon, ok, je vais faire le pitch quand même.
Vas-y.
Donc bah en gros on a une espèce de petit backup sur Blastar, un truc une douzaine de pages. Donc bah comme tous les autres War of Kings Warriors, c'était sorti en digital d'abord, puis ça a été repris ensuite sous format papier. Donc là Blastar bah, se refait une armée dans la zone négative et décide d'aller se venger en essayant de reprendre le pouvoir de la zone négative, et ça passe par reconquérir sa planète natale en tuant son père, père qu'il
Voilà.
avait chassé il y a longtemps puisque c'était un sauvage. Voilà.
Oui.
Bon, c'est pas transcendant.
Non, non, voilà, c'est pas aussi bon que la partie sur Gladiator, hein. Ça c'est clair et net. Autant Gladiator, je m'en foutais de son personnage et maintenant je l'adore depuis que j'ai lu cette petite histoire par Christos Engage, donc c'était vraiment un tour de force. Autant Blastar, je m'intéressais pas tellement à lui et je ne m'intéresse toujours pas particulièrement à lui.
Voilà,
Voilà.
bon bah le père Blastar était un très bon roi qui s'inquiétait de ses sujets, qui comptait faire de cette planète un haut lieu de la culture et de l'art, etc. Et puis bah Blastar est un sauvage, un gros
Un
barbare qui
sale
pense
gosse.
qu'à la guerre et qui finalement bah, décide d'humilier toute la planète en les faisant devenir serviteurs de son armée. Bon bah pas grand chose à en dire de plus, hein. Bon c'est toujours sympathique d'en voir un petit peu sur le personnage, ça prend pas beaucoup de pages, et puis bah de toute façon c'est dans le mag,
Bah,
voilà.
disons que pour une petite histoire sur le perso, c'est une histoire quand même qui reste plus sympathique que les petites histoires à propos des personnages de
Dark
oui, Dark X-Men. Voilà. Il y a
X-Men.
déjà
Voilà, ça c'est fait.
plus à retirer de cette histoire-là et à retenir que.
Bon, sachant que c'est quand même une grosse baston et que moi les dessins m'ont pas forcément plu, hein. Ça
Ouais, c'est
m'a
vrai.
paru un petit peu brouillon, un ancrage assez gros aussi. Voilà, j'ai pas été super séduit, quoi. Mais bon, je l'ai quand même lu et voilà,
Ouais,
ça
bon, enfin bon, faut dire que c'est un personnage quand même, qui va peut-être tenir un grand rôle dans les prochaines étapes de cette guerre.
oui.
Donc à
Puisqu'en
voir,
plus
quoi.
il se rend compte que bah, les Kree l'ont renvoyé dans la zone négative, on lui dit, et il veut pas y croire, mais finalement il se rend bien compte que les Kree l'ont envoyé là-bas, de manière à ce qu'il fasse le ménage là-bas, il s'occupe, et pendant qu'il est là-bas, ça l'occupe, et il essaye pas de conquérir l'univers positif. Il reste dans son univers négatif. Voilà.
Voilà, c'est pas comme les Dark X-Men qui sont des has-beens avant même qu'on raconte leurs origines. C'était quand même énorme de réussir à faire une équipe pareille. Enfin bon.
Ok, donc c'est la fin de notre partie kiosque. On va passer maintenant à la partie librairie. On passe maintenant à Milady Graphics avec la sortie de No Hero. Dans ce tome, les numéros 0 à 7 de la série, c'est une série complète, hein. Il y aura pas de suite à ça. Le scénario est de Warren Ellis, les dessins sont de Juan José Rip. Donc c'est publié chez Avatar, la boîte de Warren Ellis, hein, quasiment. Je
Ouais,
sais pas
quasiment.
si c'est, je sais pas si c'est vraiment la sienne, mais en tout cas,
En
c'est
tout cas,
lui
oui, en
qui
tout cas, il
écrit
l'a marqué. Ouais.
90% des choses là-bas.
Voilà. Et on retrouve donc cette équipe qui nous avait déjà fait Black Summer.
Les mêmes, ouais. Un Black Summer
Là,
que moi je n'ai pas lu, hein. Déjà, je préfère le dire tout de suite. C'est encore dans ma pile à lire, mais j'ai pas trouvé le temps de le lire, donc
Ouais, Black Summer qui est pour moi une sorte de Irredeemable à la sauce Warren Ellis.
Donc, No Hero, c'est un petit peu... En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Warren Ellis a écrit une sorte de triptyque sur, sur le super-héroïsme en général. Donc, on avait Black Summer, No Hero, et ensuite, on a Supergirl, je crois. Ça va être ça, le troisième.
D'accord, mais c'est plutôt sur les super-héros qui pètent les plombs, non ?
Sur le super-héroïsme en général, aujourd'hui, en tout cas.
Parce que là, c'est vraiment la déconstruction, à chaque fois, autant dans Black Summer que dans No Hero, c'est vraiment la déconstruction du mythe du super-héros.
Oui, mais enfin... Pourrait-il en être autrement de la part de Warren Ellis ?
Ouais, enfin, voilà, mais là c'est vraiment désespéré. Quoi.
Parce que quand on regarde ce qu'il a fait avec Stormwatch, quand on regarde ce qu'il avait fait avec Authority, c'est pareil à chaque fois.
Ah, c'était pas à ce point-là quand même.
C'était pas à ce point-là, mais.
Il y avait de l'espoir, là il y en a plus quoi. C'est à chaque fois c'est.
Stormwatch, il a quand même réussi à dissoudre l'équipe. Authority, oh, l'équipe est quand même. C'est pas une équipe pleine d'espoir, je trouve. Hein.
Ouais, enfin, c'est autre chose que ça, quand même.
Non, c'est sûr. Bon, là, c'est vrai que c'est poussé, mais c'est l'avantage d'être dans une petite boîte, on peut se permettre de faire pas mal de choses. Donc, bah, le pitch de No Hero est simple. Déjà, je vais prévenir, on va faire pas mal de spoilers, puisque ça va être difficile d'en parler, sinon, autrement. Donc, si vous ne l'avez pas lu, si vous voulez découvrir la chose par vous-même, je vous conseille d'avancer jusqu'à la prochaine review, ou alors de l'écouter une fois que vous l'aurez lu. Sinon, bah, vous savez ce qui vous attend. On va spoiler une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie en tout cas.
Ouais, bon, en tout cas, ou bien alors écoutez juste la première partie de la review, parce que on va peut-être, enfin voilà, quand on arrivera vers la fin du récit, vous pourrez avancer.
Bien, donc, l'histoire de No Hero, c'est une espèce d'équipe qui existe depuis les années 60, depuis le 6 juin 66 exactement, date. Évocatrice, en quelque sorte, puisque c'est ouais. La naissance de l'Antéchrist, soi-disant. Oui, soi-disant, parce que jusqu'à preuve du contraire, je l'ai pas vu apparaître.
Ouais, non, enfin, et surtout, j'avais pas fait le rapprochement au début, j'avais même pas remarqué, mais.
Ah ouais ?
Effectivement. Ouais, d'accord. J'avais même pas remarqué, oui, effectivement.
La date était pourtant vraiment bien marquée, et ça m'a fait tilt tout de suite, d'ailleurs.
Enfin, oui, mais toi, c'est normal, toi, t'es un sataniste convaincu, Steve.
Arrête, les gens vont le croire, en plus.
T'accroches des bébés empaillés, ouais, la tête en bas sur des croix chez toi. Tu joues aux fléchettes avec.
Ouais, ouais. Ah, j'essaye de devenir une sorte de bullseye français, quoi.
Ouais, en lançant des bébés, au fait.
Bien, donc, cette équipe, reprenons notre sérieux, quand même.
Oui, bien sûr.
On rigole pas sur les bébés accrochés à l'envers, quoi. On peut faire des blagues sur tout, mais pas sur les choses sérieuses.
Non, on peut faire des blagues sur les bébés accrochés à l'endroit.
Oui, voilà, exactement.
Mais ceux accrochés à l'envers, c'est pas drôle du tout.
Donc, cette équipe, en fait, elle est annoncée par le chef de l'équipe qui s'appelle Masterson, j'ai oublié son prénom.
Bon, c'est pas grave, on va l'appeler Masterson.
Qui annonce en fait qu'il a trouvé un moyen de créer des super-héros grâce à une drogue modifiée, puisque bah, en même temps, les années 60, hein, c'est hippie style, hein, c'est l'arrivée des hippies. Ouais. Et il a fait pas mal d'expérimentations sur les drogues et il a réussi à trouver comment créer et comment donner des pouvoirs avec ces drogues-là. Et il décide d'être pour le peuple et de devenir des super-héros, les seuls super-héros, car il ne veut pas donner sa formule à personne.
Voilà, en gros, là, on est en train de nous dire que les super-héros, bah, c'est des drogués, à la base.
Grosso modo, ouais, c'est un peu ça. On revoit un petit peu l'équipe ensuite, 10 ans plus tard. Elle décide de changer de nom, parce qu'au début, elle s'appelait... Ah bah, j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Ça y est. Bon, je ne sais plus comment, elle décide de changer de nom le 7 juillet 1977. Alors je pense qu'il va y avoir peut-être un rapport avec cette date là encore, puisque ça fait 7-7-7-7. Mais là je l'ai pas réussi à le trouver.
Bah, je pense que c'est la date du bébé maudit qui accrochait la tête en bas.
Donc là il décide de changer de nom et de s'appeler The Frontline. Et continue d'être des super-héros, mais un peu plus radicaux quand même. Autant au début, il s'occupait vraiment des droits civiques, des droits des personnes, etc., que là, il rentre un peu plus dedans à partir de cette époque-là.
Voilà, ils deviennent un peu plus intégristes, on va dire. Ils épousent un peu plus les causes qu'ils défendent, quoi.
On passe ensuite en 2010, et Frontline existe toujours. Les membres ont changé, certains sont morts, d'autres sont partis, mais Frontline existe toujours. Il y a toujours, je crois qu'ils sont 6 membres, plus le chef. Et donc, quand l'histoire commence, 2 membres se font tuer, alors que ils sont pas censés mourir. En tout cas, ils sont très résistants au mal, même ouverts, les intestins dehors, complètement éventrés, ils sont encore vivants.
Ouais, non, ouais. Et, deux membres se font tuer et tu fais bien d'en parler puisque c'est vraiment super gore. C'est vraiment d'une violence extrême.
De toute façon, toute cette série est extrêmement violente.
D'ailleurs, ouais, extrêmement violente, extrêmement gore. Et attention, parce que juste une complainte sur la sortie de cet album chez Milady, qui du reste est de bonne qualité, et, franchement c'est un bel ouvrage. Mais la seule complainte que je ferais, c'est que il y a aucun, c'est même pas pour lecteur averti, quoi, y a rien.
Ah ouais, non, là faut pas mettre ça entre toutes les mains quand même.
Vraiment, quand on voit par exemple des mangas ultra violents comme Battle Royale qui sont enfermés sous blister dans les magasins, bah franchement je comprends parce que c'est vraiment violent. Et bah là c'est pareil, quoi, c'est vraiment c'est la même violence, c'est à la portée de tout le monde finalement, puisqu'il y a pas de.
Pour vous donner une idée d'à quel point c'est dégueulasse, une bite avec une colonne vertébrale. Voilà, je pense que ça suffit. Pour donner à quel point.
Enfin oui, là les gens vont pas comprendre ce que tu veux dire.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se fait une bite avec une colonne vertébrale.
Ouais, enfin oui, voilà. Enfin, voilà.
Donc, et c'est très graphique, hein.
Ouais.
Ouais. Moi, ce serait aussi le reproche que j'ai à faire à Warren Ellis en général, c'est de pousser le bouchon un peu trop loin. Mais, c'est voulu, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y avait pas besoin d'aller jusque-là.
Ouais, voilà, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Mais jusque-là.
Ça, c'est honnêtement vers la fin. Hein, mais pour moi, ça, ouais, c'était la goutte de trop.
De toute façon, on va y venir progressivement, justement. Mais donc, tu disais, ouais, il trouve un. Au fait, toute l'histoire commence véritablement, j'allais dire, sur. Cette équipe de super-héros qui décide de trouver un jeune super-héros, quoi.
Ouais, voilà, ils veulent des remplaçants puisque l'équipe il y a un certain nombre de membres et il faut toujours remplacer les membres.
Voilà.
Ils dégotent quelqu'un, un dénommé Josh, qui en fait lui c'était son rêve de devenir un super-héros et voilà, il se prenait pour un super-héros dans les rues, il défendait les gens, il faisait des patrouilles, il avait des routes de patrouille, enfin voilà quoi. Et il est repéré par ces gens-là, puisque c'est comme ça qu'il les repère. Un petit peu, voilà, il laisse les gens un peu venir, et ceux qu'il trouve méritants, c'est comme ça qu'ils sont embauchés dans l'équipe.
Ouais, en fait, c'était un espèce de super-héros amateur, un petit peu à la Kick-Ass, quoi. Vraiment le super-héros amateur, quoi, qui se fait remarquer en affrontant des junkies dans les rues, et là, l'équipe des vrais super-héros, quoi, les super-héros professionnels qui ont pris de la drogue, le remarque et décide de l'intégrer dans leur rang.
Donc pas d'hésitation pour lui, hein, c'est ce qu'il a toujours voulu, donc il accepte, quoi. Et là où on pourrait croire que il va accepter et puis on va le voir faire des missions, etc., en fait pas du tout. C'est surtout tout ce processus d'acceptation et le fait de vouloir devenir un super-héros et tout ce que ça entraîne.
C'est vraiment le rite de passage qui est.
C'est vraiment ça qui est mis en avant, ouais.
L'élément clé de toute cette mini-série, c'est-à-dire que pour devenir un super-héros, il l'accepte, mais à quel prix ?
Ouais, voilà, ça a un prix. Mais déjà, le premier prix pour lui, c'est de renier ce qu'il était, puisque c'est un mouvement qui existe vachement plus aux États-Unis que chez nous, ce qu'on appelle le mouvement Straight Edge, c'est ne pas boire, ne pas fumer, ne pas prendre de drogue. Par exemple, pas prendre plus de médicaments. Voilà, CM Punk pour les connaisseurs de catch. quand on a des prescriptions médicales, on prend pas plus de médicaments qu'on en a besoin. Tout ce genre de choses, c'est-à-dire avoir un corps pur. En plus, là, lui, je crois qu'il est végétarien dans l'histoire. Donc vraiment, c'est vraiment pur de pur de pur. Et il faut qu'il prenne une pilule de drogue pour devenir un super-héros. Voilà. Donc déjà, rien que là, il y a paradoxe.
Ouais, voilà, exactement. Et Warren Ellis, au fait, installe son histoire avec une espèce de réflexion sur les limites à ne pas dépasser, ou jusqu'où est-on prêt à aller pour devenir un super-héros, et donc il va prendre cette drogue, et à partir de là, on va assister vraiment à une véritable descente aux enfers, quoi, de ce personnage-là.
D'ailleurs, la scène, je sais pas si t'as remarqué, la scène où il prend la pilule, c'est un copier-coller de Matrix, en fait. Le mec qui lui présente la pilule, qui lui dit « Attention, faut que tu fasses le choix, y a pas de retour en arrière.
»
C'est vraiment, enfin, ça m'a sauté aux yeux comme ça. Mais c'est pas la seule image, d'ailleurs, de quelque chose de connu comme ça. Au moment où il arrive dans la maison, je sais pas si t'as eu cette impression-là, mais pour moi, c'était le manoir de Xavier.
Ouais, il y a ouais, effectivement.
D'ailleurs, enfin pour moi cette équipe et notamment Masterson, c'est les X-Men et Xavier.
Ouais, tout à fait, ouais, on a l'impression que c'est un petit peu de la même manière que récemment il y a eu une parodie des X-Men dans The Boys, ça m'a fait penser à ça aussi. Et à chaque fois d'ailleurs ces espèces de comment dire de pastiches de Xavier, c'est toujours des gens pas nets du tout et qui sont plutôt de fieffés manipulateurs.
Ouais. Mais de toute façon, comme tu le disais, ça dérape ensuite au
Bah,
niveau de.
on se doute qu'il y a une entourloupe, mais juste sur la scène là où il prend la pilule et au fait bah, il devient un super-héros, c'est vraiment pour moi la scène choc et la scène culte de nos héros. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, cette espèce de, comme je disais tout à l'heure, de descente aux enfers, de basculement vers la folie, puisqu'au fait il devient complètement fou,
Oui, bah
quasiment.
tout ce qu'il voit, puisqu'il le met dans une pièce, puisqu'apparemment la pilule prend 12 heures à faire effet, et à lui donner des super pouvoirs, et pendant ce temps-là, il est en proie à des hallucinations, à ce genre de choses,
Et puis
puisqu'il
ça a
faut
des
un taux de
effets.
stress, élevé pour que les pouvoirs se développent.
Voilà, et puis ça a un effet non seulement psychologique sur lui, mais physique aussi.
Ah bah disons que, comme il dit, la recette change, il ne sait pas à l'avance ce que chacun aura comme pouvoir. C'est en fonction de soi en fait. On a les pouvoirs un petit peu que l'on mérite, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, etc. Et ça peut être n'importe quoi. Il y en a même qui n'ont pas survécu, qui ont explosé, tout simplement, dès l'absorption de la pilule.
Voilà, oui. Comme quoi, c'est vraiment gore.
Lui, ben lui, il perd toute sa peau.
Oui, dans un premier temps, il perd toute sa peau. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment très très gore, très très graphique.
Ben, ça commence à peine après avoir eu cette pilule, il se gratte le doigt et il s'arrache l'ongle. Scène que j'ai trouvée atroce.
Ouais, je
Personnellement.
me doutais
Ça, c'est
que.
dé... ça, je... c'est con, c'est un tout petit truc, mais je trouve ça tellement dégueulasse, beaucoup plus dégueulasse que les mecs avec les boyaux ouverts, quoi.
Oui, voilà, non, mais c'est ces
Parce
petits
que
détails comme
c'est
ça
trop proche
qui.
de nous, c'est trop possible. C'est ça
Oui,
qui me
voilà.
gêne.
C'est ces petits détails qui font que très vite on est dégoûté. Puis alors, pour toucher un mot aussi sur les dessins de Juan Roserip, que j'ai particulièrement aimé quand même,
Ah, franchement, c'est très joli.
c'est très joli, c'est très fouillé. Et puis justement, là où il est à son meilleur, c'est vraiment sur ces pages où il vient de prendre la pilule et il devient fou. On voit plusieurs doubles pages où c'est pratiquement des tableaux.
Oui, et puis il y a beaucoup de représentations, je veux dire, on voit des chats morts, on voit des bêtes un petit peu Lovecraftiennes. Il y a de tout en fait.
Ouais,
Il y
c'est
a
pour
de
ça que je te
tout.
disais, effectivement, c'est vraiment une descente aux enfers, et c'est vraiment plusieurs tableaux qui, bah, c'est vraiment l'enfer, quoi. C'est vraiment une
Oui, et puis
représentation de l'enfer.
chaque tableau est plus choc en fait que le précédent, quoi.
Ouais, en
Chaque nouveau
plus.
tableau est plus choc que le précédent. Donc
Effectivement, ouais, et les dessins de Juan Roserip, moi, me font penser un petit peu à du Frank Quitely par moment.
Ouais.
C'est très détaillé, c'est très organique. Et là, forcément, ça va bien avec No Hero, puisque bah, on voit même plus d'une fois des tripes et des organes voler à travers les pages. Mais en tout cas, bon, voilà, graphiquement, c'est vraiment très très bon. Alors, arrivé
Moi,
à ce stade.
je voudrais juste rajouter un truc. Je trouve que les dessins sont vraiment jolis, hein, sont vraiment bien. Comme tu disais, c'est super détaillé, c'est super fouillé. Pour moi, ça l'est même un peu trop. Au point qu'il y a beaucoup de moments où on ne sait plus ce qu'il faut regarder.
Ouais, aussi, oui,
Pour
c'est
moi, il
pour
y en
ça
a
que.
trop, mais c'est par contre, c'est un véritable tour de force, parce qu'il s'ancre lui-même en plus.
C'est pour ça que moi, je te dis, ça me faisait penser à Frank Quitely, parce que j'avais ce problème avec Frank Quitely sur les X-Men notamment. Il y avait des dessins où il y en avait un petit peu trop, je trouvais, et pareil, quoi, j'avais du mal à voir exactement ce qui se passait. Je me rappelle de certains épisodes avec Cassandra Nova, et là, ça m'a vraiment fait penser à ça. Certaines de têtes des personnages notamment.
Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment des ressemblances dans le style.
Et puis même lui, une fois qu'il est transformé, il a vraiment une tête de mutant assez particulier.
Ouais. Il y avait un mutant translucide comme ça, fut un temps, dans les
Ouais, aussi,
X-Men.
voilà. Donc ça m'a vraiment
Très
fait penser à
proche.
ça. Bah, bref, quoi qu'il en soit, quand arrivé au, en fait, là, on est à peu près au milieu déjà de l'histoire, et arrivé à ça, je me suis dit, bah là, Warren Ellis tient vraiment quelque chose. Et effectivement, c'est original. Moi, ça me semblait vraiment novateur, et j'étais intéressé de savoir où ça allait. Ben voilà, après malheureusement il y a la deuxième partie de l'intrigue qui est à mon avis beaucoup moins bonne que la précédente, enfin que la première.
Ben, voilà, il y a un gros retournement de situation qui se passe.
Qui est super prévisible quand même. Enfin j'ai trouvé que c'était super prévisible.
Ouais, à ce point-là, peut-être pas. Enfin, moi, pour moi, je le voyais pas à ce point-là.
Ah oui, alors attention, en fait il y a deux retournements de situation, peut-on dire. Il y en
Oui.
a un qu'on peut quasiment révéler, puisqu'au fait, le nouveau super-héros, donc le personnage principal, quoi, va s'apercevoir que ses employeurs, donc toute l'équipe de super-héros, sont pas vraiment des héros, quoi. En fait,
Oui, voilà. Enfin, on va le dire clairement. Hein, de toute façon, on a donné le spoiler tag. Donc, voilà, ils sont les maîtres du monde. En fait, c'est eux qui gèrent un petit peu leur façon ce qui se passe dans le monde.
Ouais, c'est un petit peu comme à Authority, mais encore pire, quoi. Vraiment, c'est vraiment Authority qui aurait totalement pété les plombs.
Oui, mais comme ils disent, ils permettent certaines choses et ils en arrêtent d'autres, et c'est pour le mieux.
Bah, c'est un mal pour un bien, quoi.
Et la dernière page finale nous montre que finalement, c'était peut-être pas si mal que ça.
Bah, ah oui, alors la dernière page finale, je l'ai vraiment trouvé ridicule. Hein. C'est vraiment une liste de clichés, mais tellement énorme, qu'on peut même terminer la lecture de nos héros en rigolant. Mais justement, enfin voilà, le problème, c'est que déjà le twist comme quoi c'est des pourris, bah, je le voyais venir à 1000 km.
Moi aussi, je l'ai vu venir, mais pas à ce point-là, en fait. Pas autant la main mise sur le monde, disons.
Oh si si, bah moi, c'était vraiment le côté, voilà, je savais que Warren Ellis avait écrit Authority, et puis je me disais que, à mon avis, ces mecs-là doivent être vraiment un but de leur personne, pourris jusqu'à l'os, et puis voilà, mais je m'attendais à ce twist-là, et justement, j'espérais que Warren Ellis allait trouver autre chose de plus original. Alors, il y a un second twist qu'on va pas révéler
celui-ci,
cette fois.
Celui-ci, on n'en parlera pas.
On va pas le révéler, mais ce second twist est plus inattendu, on va dire. Bien que je m'attendais plus ou moins à un truc comme ça.
Bah,
Alors,
on peut le voir dès le début, en fait.
Comme tu dis, je m'attendais pas à un truc à ce point-là, mais je m'y attendais quand même aussi un petit peu. Donc c'est-à-dire que il y a une espèce de montée en puissance au début de l'histoire, jusqu'à la prise de la pilule, qui est vraiment l'apothéose de le point d'or.
Même
en fait.
Encore après, en fait, jusqu'à ce qu'il sorte, en fait, jusqu'à ce qu'il se révèle en public.
Ouais,
jusque là,
c'est
ça va.
vrai, ouais.
La recherche de qui peut être un traître et qui s'amuse à tuer les super-héros est pas mal. Encore,
oui,
ils se demandent qui
y a
c'est,
toujours cette partie,
on commence à voir qu'ils ont le nez partout.
Mais trop vite, ça tombe à plat, puisque trop vite, on voit où ça va, quoi, avec le premier twist, déjà, et puis ensuite, voilà, il y a quand même un second twist pour contrebalancer le premier, mais du coup, voilà, on s'y attend. C'est-à-dire que le premier entraîne le deuxième, quelque part.
Un des soucis, en fait, pour moi, dans la narration, c'est que ça prend un peu trop son temps là où ça mériterait d'aller un petit peu plus vite. Et là où ça mériterait de prendre un peu plus son temps, ça va un peu trop vite. C'est-à-dire que on a toute la partie jusqu'à la fin de l'épisode 5, à peu près, qui est assez lente, où il se passe pas grand-chose. Un petit peu d'accélération, enfin, ça aurait été développé un peu plus rapidement, ça aurait peut-être pas été plus mal. Et puis la deuxième partie, donc cet épisode 6-7, où ça bastonne dans tous les sens, là finalement il aurait peut-être valu prendre un peu valu, enfin il aurait mieux valu je pense prendre un tout petit peu plus son temps, parce que là ça nous paraît vraiment trop coup sur coup, et enfin moi en tout cas ça m'a donné cette impression un peu trop coup sur coup, genre il faut que je termine vite, et ça prend pas forcément son temps au bon moment, je trouve.
Enfin, en même temps, moi j'ai préféré la première partie que la seconde, parce que justement la seconde me semblait trop téléphonée, et puis
oui, mais aussi parce qu'elle est trop rapide. Peut-être un peu plus étalé, ça serait mieux passé.
Ouais, sans doute. Mais en tout cas, les premières parties, voilà, je sentais que c'était quelque chose d'original. Il y avait une espèce de montée en puissance, et puis ensuite, ça s'écroule vers quelque chose de très cliché.
Pour moi, peut-être s'il avait fait une ou deux missions avant la révélation, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant.
Oui, voilà, aussi, ouais, exactement.
Parce que là, c'est trop rapide. Donc c'est pour ça. Pour moi, ça aurait été soit en 5, soit en 10. Tu vois, je veux dire, soit on raccourcit un peu et il y aurait eu un rythme un peu plus soutenu sur la longueur et non pas juste sur la fin, qui est même trop rapide sur la fin, soit on étale un peu plus et ça nous paraît moins rushé, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais enfin voilà, donc globalement, pour moi, c'est je pensais que je tenais vraiment quelque chose d'original et qui allait vraiment me marquer. Et voilà, finalement, c'est la montagne qui accouche d'une souris. La première partie est vraiment, comme je disais, ouais, une montée en puissance, une espèce de montée d'adrénaline. On se prend vraiment d'affection pour ce personnage et on se dit dans quoi il s'est fourré, et jusqu'où il va aller, et on a mal pour lui. Et puis finalement, après, on est vraiment dans le cliché, j'ai trouvé. On était vraiment dans le cliché et la fin est juste risible. À mon sens, c'est risible, la fin. Parce que c'est too much, il y en a trop.
Ben voilà.
On s'en fout d'ailleurs. D'ailleurs, on s'en fout de. Je sais pas si t'es comme tout, que si t'étais
ben
comme
moi,
moi,
j'avais
mais
hâte que ça se termine.
voilà, je qu'importe la manière d'ailleurs dont ça se termine, à la fin je m'en foutais complètement.
Mais ouais, à partir du moment où il y a le gros pétage de plomb de tout le monde, voilà, c'est il y a trop en fait, c'est beaucoup trop et trop de violence, trop de dérives, trop de tout en fait.
Mais
Mais par
c'est vrai que
contre,
c'est d'une violence inouïe, hein.
ah ouais.
Encore une fois, on le rappelle.
Par contre, c'est vrai que c'est vraiment un pastiche des X-Men. Voilà ce que Xavier, enfin, ça pourrait donner si Xavier avait de plus mauvaises intentions, disons.
Enfin, même si Xavier a des
Oui, non, mais.
intentions d'ailleurs pratiquement quasiment
Ouais, enfin, non,
aussi
non, c'est pas à ce
mauvaises par
point.
moment,
C'est pas à ce point-là. Enfin, je veux dire, là.
enfin oui, donc, de toute façon ça ne pètera jamais les plombs comme ça, puisque Marvel, c'est pas Avatar Press, quoi.
Mais ouais, enfin, pour moi, c'est véritablement les X-Men de pastiché, quoi. Une
Oui,
école, des super-héros, un chef plutôt charismatique.
ouais, enfin c'est un petit peu c'est les X-Men, mais les X-Men, à la seule différence, c'est que, et elle est majeure quand même, c'est que les X-Men ont leur pouvoir malgré eux, c'est-à-dire ils ne veulent pas devenir mutants. Là, c'est vraiment un choix.
Ouais, mais
C'est vraiment.
Xavier les recrute pour les entraîner pour devenir ces X-Men,
Oui, tout à fait.
comme là Masterson le fait. Il
Exactement,
recrute
ouais.
les gens.
Mais là, c'est un choix, par contre. C'est vraiment une décision personnelle de voilà de
Oui,
du super.
ouais, enfin, il y a cette décision de vouloir avoir les pouvoirs, mais la finalité reste la même. Xavier Masterson, même combat.
Exactement, aussi.
Donc voilà, donc c'est pas une mauvaise lecture, dommage pour la fin. Pour moi, c'est quand même quelque chose que ça vaut le coup d'aller voir.
Ouais, voilà. Ça vaut le coup d'aller voir, mais dommage vraiment, parce que pour moi, il y a deux parties. Il y a la première qui aurait pu être vraiment un grand comics, et puis la seconde qui fait que finalement, bah, c'est pas quelque chose que je retiendrai particulièrement. Et limite, à cause de cette deuxième partie, j'ai préféré Black Summer.
D'accord. Bah ouais, moi je l'ai toujours pas lu donc voilà, je
Black
pourrais
Summer
pas.
qui reste quand même plus, on va dire,
Moins taré.
non, mais surtout, c'est quand même assez taré, mais assez barré, moins que ça, oui, c'est vrai. Mais par contre, ça reste plus commun, quoi. On a déjà vu ça, Black Summer. Il y a d'autres comics auxquels on peut le comparer, alors que là, No Hero, c'est vraiment aussi, encore une fois, un ovni de Warren Ellis.
Oui, comme bah là où il se fait plaisir quoi, chez Avatar il se fait plaisir. C'est surtout ça que je vois. Il peut laisser libre cours à son imagination et se laisser aller dans tous les délires qu'il a envie d'amener quoi.
Oui, bah, il faut, enfin, là on voit que le type est quand même sacrément perturbé.
Parce que bon, il y a quand même pas mal de pamphlets sur la drogue en général, donc après ça reste. Enfin, chacun ses visions des choses, quoi. Bien, on va passer à la suite peut-être?
Ouais, voilà, on a fait le
Enfin,
tour de nos héros de toute façon.
on passe donc maintenant à du DC avec un gros volume, Jonah Hex, tome 2. Ce sont les épisodes de Jonah Hex, volume 2, numéro 13 à 24. Au scénario, on retrouve Justin Gray et Jimmy Palmiotti. Au dessin, on a 4 dessinateurs sur tous ces épisodes. On a Jordi Bennett, Phil Noto, Val Semeisk et David Michael Beck. Donc, bah, comme pour le premier tome, on a des histoires principalement solitaire, de temps en temps des histoires en deux parties, mais le gros du tome en fait c'est surtout les origines qu'on a dès le début, hein, qui sont les épisodes 13 à 15,
En
qui
trois
bah
parties, donc au fait
ouais.
ça va encore, c'est pas très grand non plus.
Non mais c'est la qualité quand même de la série, faut être honnête, on peut prendre un épisode et puis y revenir que quelques mois plus tard si jamais on a été intéressé mais sans plus quoi. C'est l'avantage de Jonah Hex, c'est que ça peut se lire comme ça, sans forcément avoir une grosse continuité. Et quand on prend un arc, on s'engage pas beaucoup. En tout cas,
Voilà.
sur ces 24 premiers épisodes, qui sait si la suite de la série, il n'y aura pas des plus longs arcs, mais ça je sais pas. Donc bah on apprend un petit peu ses origines. C'est raconté d'ailleurs un petit peu dans le désordre.
Ouais, totalement, ouais. C'est-à-dire que la deuxième partie est un petit peu on peut lire la première et la troisième, au fait.
Ouais, c'est vrai. Mais en fait, la première se passe avant la deuxième et avant la troisième, mais en même temps, ça se boucle. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on voit ses origines, il y a aussi une autre histoire en arrière-plan.
Oui, aussi, ouais. Exactement, oui. Qui est surtout qui fait l'objet surtout de la deuxième partie, au fait.
Ouais. Donc voilà. Mais bon, c'est intéressant, quoi. Ça reste vachement bien, de toute façon. C'est une série que moi j'aime beaucoup. Et pourtant, je suis pas un fan de western du tout, donc.
Bah, de toute façon, on avait vraiment accroché aux 12 premiers, même sans déjà connaître ses origines. Donc là maintenant, bah voilà, on nous les livre. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que le John Hex, vraiment, il est, enfin, il est maudit, quoi. Partout où il va. D'ailleurs, on s'en rend compte à chaque fois qu'il y a une histoire. Dès qu'il arrive, c'est le moment où tout dégénère.
C'est un peu ça, ouais.
C'est quand même super poissard, quoi. Il arrive avec son cheval et ça y est, il y a 15 morts au moment même où il met le pied dans la ville. Il y a 15 morts, il y a une attaque d'Indiens, il y a, je sais pas, une diligence qui se fait cramer, il y a un père de famille qui viole sa femme et qui tue ses enfants. Mais j'exagère à peine, hein.
Non, mais c'est vrai en plus. J'exagère à peine,
donc c'est vraiment Super Poissarman, au fait, qu'il pourrait s'appeler aussi.
Ouais, c'est vrai.
Et franchement, si Lucky Luke c'est le Lonely Cowboy, lui on comprend pourquoi il est seul, quoi, souvent, puisque avec la poisse qu'il a. Alors bon, après ses origines, il y a par exemple, alors je sais pas si c'est directement après, hein, je sais plus.
Oui, c'est juste après l'arc sur Talula.
Voilà, ouais, il y a un arc en deux parties, je crois, où au fait c'est une espèce de team up, quoi. Il rencontre une nana et puis
qui est dans le même état que lui en plus, hein.
Voilà, ouais.
Qui a vraiment bien mangé.
Aussi destroy que lui et j'allais dire il la dompte, mais ça pourrait être pris à.
Bah c'est elle qui vient le chercher en fait pour.
Oui voilà c'est ça. En fait ils sont faits l'un pour l'autre.
Sa vengeance. Ouais voilà c'est exactement.
Ils se complètent bien et bon on va pas du tout révéler l'histoire de toute façon qu'il les lit.
Non mais c'est gore. Hein. D'ailleurs pour moi c'est aussi un des reproches du tome, c'est que la première partie, à peu près les 6 premiers épisodes, je les trouve quand même assez violents comparé à la deuxième partie.
Il y en a un notamment super gore, on dirait pratiquement un épisode des Contes de la Crypte, avec, tu sais, la nana, il y a son père qui meurt, et elle reste sur le cadavre de son père.
Oula, ça me dit plus rien, celle-ci.
Ah non, c'était peut-être plus son père, d'ailleurs. C'était peut-être pas son père, je me gourre peut-être, en plus.
Mais on a l'histoire avec la cannibale, là, enfin...
Oui, c'est ça, oui, non, ça doit être ça.
C'est pas. Celle-ci, d'accord. Ouais, c'est vrai que celle-ci, ouais, c'est vraiment un conte de la crypte.
Voilà. C'était absolument atroce. Et voilà, donc, non, il y a vraiment, c'est bien plus gore, surtout que le premier volume, j'ai trouvé.
Ouais, bah, en tout cas, sur cette première partie, après, ça se calme quand même.
C'est vrai que ça se calme.
Je préfère quand ça se calme, je trouve ça plus sympa. Quand c'est du gore pour faire du gore, c'est. Je sais pas, j'accroche moins. Justement, l'histoire avec Talula, dont tu parlais tout à l'heure, est quand même d'une extrême violence, celle-ci.
Ouais. Mais enfin, ce qui est assez marrant, c'est
qu'ils lui ont fait, c'est quand même hardcore.
Ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, oula. Alors, je sais pas si c'est parce que la série ne décollait pas et du coup, ils ont essayé de faire un truc plus trash. Parce que voilà, au fait, John Hex, c'est aussi un petit peu le Punisher, mais version western.
Ah bah et, oui, complètement.
Et là, bon, le Punisher, c'était bien plus violent. Et bah là, maintenant, on atteint des sommets de violence que même. Garth Ennis n'aurait pas forcément osé mettre dans le Punisher. Enfin, j'exagère à peine. Hein. Mais le coup de la cannibale et puis les origines de Talula, c'est vraiment hardcore.
Talula.
Ah oui, j'ai dit Talula.
Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. On a aussi une histoire avec une pute tueuse.
Ouais, enfin, voilà, c'est si joliment dit.
Une mère maquerelle.
Oui, voilà.
Ah bah je parle comme au Far West, hein.
Ouais non mais en plus il dit ça, hein, je pense que c'est vraiment dit comme ça.
Donc voilà, qui en plus est une histoire en deux parties sans être véritablement un arc. Finalement on y revient dans l'épisode d'après et c'est pas mal. À partir de là en fait je trouve que la série change, enfin par rapport à ce tome, c'est-à-dire que on a ces six premières parties, donc les trois sur l'origine, les deux sur Talula, plus l'histoire de la cannibale, qui sont quand même vraiment hardcore, et après on revient à quelque chose d'un peu plus calme, un peu plus traditionnel que ce qu'on avait eu dans le premier tome.
Alors, je sais plus dans laquelle c'est, mais je crois que c'est au milieu du bouquin. Un moment, il est toujours aussi poissard, et ses adversaires donc l'attachent la tête en bas, et il arrive quand même à se détacher.
Ah ouais, c'est clair.
Alors là, faut le faire. C'est même le Punisher n'y arrive pas. Il arrive à décapiter avec sa bouche. Un buzzard, en fait, un vautour. Ben,
il se mord la langue, il se fait saigner la langue pour attirer les buzzards qui lui tournent autour.
Oui.
Et ensuite, bah vas-y, hein, je te laisse finir.
Bah, il chope le cou du buzzard avec sa bouche en plein vol. Enfin, c'est pas lui qui vole, mais je veux dire, le buzzard qui passe à côté, puisque attiré par le sang, et bah, il le chope à la gorge avec sa bouche, il le mord, et donc il lui arrache la tête comme ça, et il arrive à sectionner, en fait, ses liens avec le bec du vautour.
juste à temps pour éviter les chacals qui se pointent et qui perdent du temps à bouffer le corps du busard ouais. mort, justement.
Non, mais alors ça, même David Copperfield ne l'a pas fait, hein, celui-là.
Ouais. Non, donc, ça, par contre, bon. C'est vrai que ça, c'est une scène un peu crade aussi.
Bah, c'est une scène un peu crade et puis totalement, totalement hallucinante. Enfin, quand
totalement
j'ai vu ça,
gratuite, surtout. C'est gratuit, je trouve.
Ouais, non, mais là franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, il y a Garcenis qui a participé au scénario. Parce que c'est vraiment, tu sais, c'est grotesque, là, c'est vraiment... c'est too much, quoi, c'est gore et c'est malsain et c'est une manière de prendre la fuite. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi.
Après, bah, on a des épisodes aussi un peu plus sérieux, genre il rencontre Edison.
Ah oui, il y a aussi sa rencontre avec Thomas Edison où il y a même des espèces de machines étranges.
Ouais, des automates.
Ouais. Et non, franchement, il y a vraiment toute une mythologie qui se met en place autour de John Hex aussi, durant ce volume, qui est vachement intéressante. Et mine de rien, on en apprend beaucoup plus encore sur le personnage.
Ouais, petit à petit, c'est ça qui est c'est bien disséminé.
Voilà, c'est vraiment ses origines qui nous sont narrées au fur et à mesure. Et voilà, et puis son profil psychologique, enfin si on peut l'appeler comme ça, qui nous est
montré
ouais, progressivement. Et
on a encore l'histoire avec le photographe qui l'accompagne chez les Indiens. Et puis bah, le fameux sens de l'honneur de John Hex.
Oui.
Voilà. Et on a surtout le dernier épisode qui, je trouve, est une pure merveille, l'épisode spécial Halloween.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Avec Batlash et El Diablo, qu'on avait pu voir dans les premiers tomes. Enfin, dans le ouais. premier tome en français, en tout cas. Avec un Jonah X possédé par El Diablo et un épisode complètement fou, mais je l'ai trouvé génial.
Complètement déjanté, ouais, avec un artiste, je crois, qui est juste sur cet épisode, d'ailleurs.
Oui, David Michael Beck, ouais.
Voilà. Qui est pas mauvais, d'ailleurs.
Ouais, franchement, joli style. Mais d'ailleurs, pour moi, c'est une des forces de cette série. C'est que déjà, on a beaucoup de dessinateurs qui passent. Alors ça n'a pas dû se sentir en français, mais en tout cas en anglais, on a aussi des lettreurs différents, ce qui change énormément la donne, puisque les bulles d'un épisode à l'autre ne sont pas écrites de la même façon.
Ouais.
Donc ça aussi, ça change l'atmosphère. Et surtout, la façon d'écrire de Justin Gray et Jimmy Palmiotti n'est pas du tout la même d'une histoire à une autre. On a des tons vraiment différents. C'est-à-dire l'histoire avec le photographe, c'est le photographe qui raconte, il y a un style particulier, comparé par exemple l'histoire avec la pute tueuse, par exemple, qui est beaucoup plus rentre-dedans.
Ouais, et puis il y a des histoires qui se lisent très vite, d'autres qui vont se lire beaucoup plus... Enfin, qui vont...
Prendre plus de temps, ouais.
Qui vont demander plus de temps de lecture. Et voilà, donc c'est vraiment... Ils arrivent à renouveler sans cesse la série en changeant le style,
Il y a
ce
des
qui
moments,
est quand même très fort.
C'est à croire que c'est pas écrit par le même scénariste, parce que
oui, voilà.
On n'a pas forcément le même ton. Même Jonah Hex lui-même n'est pas forcément pareil. En fonction
enfin,
d'avec qui il est.
Voilà, mais comme ils sont deux, peut-être qu'il y en a un qui écrit plus que l'autre. Quelquefois, il y en a peut-être un qui fait juste le plot et l'autre qui narre le récit dessus. Donc peut-être qu'il permute comme ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est très bien fait.
Ouais, c'est franchement très très bon. Si vous avez aimé le premier, nul doute que vous aimerez le deuxième. Et si vous aviez pas essayé, allez-y franchement, parce que même quand on n'est pas fan de Far West, ça, franchement, ça se laisse lire, c'est vraiment agréable.
C'est juste un tout petit peu plus gore que le premier, mais c'est vraiment toujours aussi bon. Et pour peu d'ailleurs que vous aimiez le Punisher, et que vous vous disiez, ouais, le Far West, comme ça m'intéresse pas, etc. Et bah franchement, moi ça m'intéressait pas plus que ça au début. Et j'ai lu le premier tome, j'ai vraiment aimé, et je vous conseille vraiment ce deuxième tome. Voilà.
Et puis bon, ça rattrapera un petit peu du film tout pourri qui est sorti sur
ouais,
les
non, et là par contre faut vraiment éviter. Voilà, quitte à ne pas aller voir le film, achetez le bouquin. Bon, c'est un peu plus cher.
un petit peu
plus cher, mais si c'est du direct ou DVD, de toute façon le DVD risque de coûter à peu près ce prix-là. Donc là carrément le bouquin à 100% conseillé. Par rapport au film.
Au moins, vous aurez l'impression d'en avoir pour votre argent.
Ouais, exactement.
Et pas de vous être fait voler.
Non, mais là, franchement, c'est très très bon et voilà, une lecture vivement conseillée.
Ouais. On va passer maintenant au dernier bouquin de ce mois-ci. Et encore une fois, c'est un énorme truc, enfin, un peu moins gros quand même.
Ouais, un peu moins gros. Épisodes.
On file donc chez Vertigo avec la sortie de The Losers, tome 2. Donc, comme on le disait, un tome un petit peu plus petit puisque... Panini nous a publié que 10 épisodes dans celui-ci. La série comptant 32 épisodes au total. 32. On aura donc encore un autre tome de 10 épisodes. À rappeler quand même qu'aux États-Unis, le premier omnibus, enfin le premier hardcover de 12 épisodes est sorti, comme en France, et on a un deuxième tome qui sort en août qui contient toute la fin de la série. C'est-à-dire qu'on n'aura que deux gros tomes en version US, trois en version française.
Voilà, pas bête la guêpe.
À savoir si nous sortirons vraiment à la fin, parce que si le film est un échec, voilà. On verra si les ventes, enfin je sais pas. On espère
non,
quand
mais
même
non,
qu'on
non,
aura la fin.
je pense que dans ce cas-là, ils nous sortent quand même le troisième volume.
Ah, espérons. Donc, ce sont.
À moins que les que la que le deuxième ne se vende pas du tout. Et...
Ah, c'est possible aussi ça.
Mais je pense que ça s'est plutôt bien vendu, et puis grâce à nous en partie. On a
Ouais.
tellement fait une bonne émission dessus que
Grâce au
les
fait.
gens se sont dit.
Grâce au fait qu'il y a le film surtout. Enfin bon. C'est sûrement pas nous. Bref, ce sont les épisodes 13 à 22, je sais pas si je les avais déjà dit ça, 13 à 22 donc de la série, scénarisé toujours par Andy Deagle, avec au dessin Jock, enfin qui se fait de plus en plus rare d'ailleurs, et on a aussi Nick Dracota, Ale Garza et Ben Oliver. C'est-à-dire que deux épisodes par Nick Dracota, trois épisodes par Ben Oliver, un par Ale Garza, ça fait que quatre épisodes réellement dessinés par Jock.
Ouais, bah c'est comme tous les dessinateurs vedettes sur telle ou telle série. Petit à petit, il s'efface et bon, peut-être qu'il avait trop, peut-être qu'il mettait trop de temps, peut-être que
ouais,
les délais.
Peut-être, ouais. Alors, il fait toutes les covers en revanche. C'est lui qui a fait toutes les covers, mais c'est vrai que bah les intérieurs, c'est plus vraiment lui quoi. C'est dommage.
Les covers
d'ailleurs.
Qui sont quand même assez recherchés, hein, qui sont pas
oui,
mal.
oui, c'est clair. Mais bon, enfin pour moi, qu'est-ce qui est le plus important, c'est.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, on n'est pas de ceux qui achètent des comics pour la couverture.
Non, vraiment pas non. Donc. Bah, là, donc, on continue exactement ce sur quoi on était arrêté au dernier tome, c'est-à-dire on part au Qatar pour essayer de de découvrir un petit peu ce qu'est cette plateforme que Max avait achetée.
Et là, c'est la catastrophe. Oh,
oh putain.
Oh, elle était bien mauvaise. Puis alors, après, je te dirais même que c'était un démarrage sur les chapeaux de roue.
Oh là, alors là, celle-ci, il va falloir que tu me l'expliques parce que là, je la vois pas.
Ah bah non, bah ça commence sur une grosse poursuite avec des voitures partout. Souviens-toi.
Ah oui. Oh, j'y étais pas du tout. Oh là là.
C'était tellement mauvaise. C'est incroyable. La blague à retardement.
Chapeau de roue, je croyais qu'il nous faisait une blague avec le chapeau de cougar, en fait.
Ah, pas du tout. Non. Ah bah non. Non, mais tu vois, dans Dragon Ball Z, à un moment, il y a Hercule qui se fait taper par un coup de poing à retardement. Et bah là, c'est la blague à retardement comme City. C'est quand même très fort.
C'est un peu ça. Donc bah sur cet arc on retrouve donc l'équipe de The Losers, mais on retrouve aussi Stegler qui s'est retrouvé là-bas, donc celui qui enquête un petit peu pour découvrir qui est derrière Max.
Voilà, oui.
Qui fait toujours partie lui de la CIA.
Exactement, oui. Les ennemis.
Et ça nous donne la première rencontre entre Clay et Stegler, où Clay finalement sauve Stegler de la mort.
Ouais, contre toute attente.
Et en faisant cette petite mission pour un gars du Qatar qui a l'air d'avoir d'influence, en tout cas, ils arrivent à obtenir quelques informations sur Max, et notamment le fait qu'il détient une banque à Londres.
Oui.
À partir de laquelle il fait pas mal de transactions. Et donc ça permet de les relancer sur une autre piste.
Oui, d'ailleurs, il va y avoir l'arc qui se déroule à Londres, mais avant.
Oui, avant, on a un one-shot sur Aisha, où on apprend un peu plus de ses motivations. One-shot que moi j'ai trouvé un peu chiant, honnêtement.
Oui, moi aussi, moi je m'attendais à un truc un peu plus, encore une fois, un peu plus transcendant, un peu plus, voilà, la bof, quoi. Aisha,
C'est ouais. pas un personnage que j'aime de toute façon, donc voilà, ça m'a un peu fait chier que ce soit sur elle, quoi. Enfin bon, en tout cas.
Moi, sans plus, comme je disais l'autre fois, elle avait un petit côté mystique, un peu énervant, l'espèce de nana sur laquelle on sait qu'il faut pas trop compter non plus.
Ouais, bon, jusqu'à présent, elle a toujours été là pour les losers, mais bon, comment on apprend un petit peu sur ses motivations et notamment dans l'arc suivant, la révélation finale. Voilà, bon, on va pas la donner, on va vous la laisser découvrir soit ici, soit dans le film.
Non, mais en tout cas, il y a des révélations dans ce volume, ça c'est clair et net. Et il y a aussi de nouvelles relations qui se nouent, des intrigues qui se mettent en place.
Bah, déjà, surtout, l'arc peut-être le plus important dans ce tome, c'est surtout l'arc des origines.
Oui, aussi.
Sur The Losers, on voit enfin cette fameuse mission qui a foiré, et pourquoi ça a foiré.
Voilà, ouais, on a les éléments de réponse là-dessus.
Et on comprend pourquoi ils vous en veulent à Max, vraiment.
Exactement. Donc, ils lui en veulent à Max.
Oh là là, fou, c'est la fin, tu te lâches.
Alors là, je pense que c'est les meilleures blagues depuis bien longtemps. Hein.
Donc ouais, on apprend pas mal de choses aussi. Pourquoi Cougar ne parle plus par rapport à ce qu'il a vu, quoi. Donc non, pas mal de choses. Donc après on part à Londres et puis bah c'est ce qui conclut un petit peu cette histoire, enfin ce tome en fait. Tout se termine à Londres et non, c'est vraiment bien. On a le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Enfin franchement ça reste vraiment
C'est
bien.
vraiment un cocktail détonnant, quoi. C'est vraiment bourré d'action.
Ah bah c'est que ça.
C'est toujours très drôle quand même.
Oui, en plus, oui.
Malgré tout, hein, c'est quand même toujours très drôle. Et puis, enfin, j'ai trouvé aussi, alors un petit peu comme John Eric, j'ai trouvé ça encore plus, enfin, plus gore que le premier. Il y a notamment
Ouais, il y a des
ce,
scènes crado. Ouais.
oui, bah, il y a notamment un moment la découverte d'un mec, on aurait dit, enfin, un zombie.
Ah ouais, non, cette scène est vraiment dégueu.
Voilà. Tu vois de quelle scène je te parle.
Ouais.
Je sais plus dans quel, je crois que c'est dans le second arc, hein.
C'est l'arc sur les origines. Ouais.
Voilà. Où c'est vraiment crade.
C'est-à-dire
Et
qu'on a un demi-humain, quoi. D'un
ouais,
côté
voilà,
humain, d'un
ça,
côté
enfin,
mort-vivant,
espèce
quoi.
de truc à la, moi, ça m'a fait penser à Seven. Et voilà. Et donc, c'est vraiment,
C'est-à-dire que s'ils cherchaient un nouveau Crypt Keeper, ils l'ont trouvé, quoi.
voilà. Mais, oui, c'est vrai. Mais autant la première partie, Claire trouvait ça un petit peu gore. Moi, je trouvais que c'était bof, tu vois, c'était gore, mais
Ouais.
gore marrant, quoi. Là, c'est vraiment gore crade.
Ah bah on a des balles dans la tête avec des yeux qui volent, on a des choses comme ça, quoi.
Oui, mais enfin, c'est gore crade dans le sens où il y a vraiment quelques trucs hyper malsains. Et
Ouais, ça passe partout, ouais, franchement.
voilà. Donc bon, mais cela dit, ça reste vraiment trépidant et c'est rythmé, ça va à 100 à l'heure et
Bah,
on
ça va
tombe pas une
tellement à
seconde.
100 à l'heure qu'on n'a pas l'impression d'avoir lu 10 épisodes, en fait.
Oui, c'est un petit peu le problème aussi. Ça se lit quand même assez vite,
Ouais,
plus vite que
franchement.
Jonah Hex, par
Ah
exemple.
bah, beaucoup plus vite. Bon, déjà, il y a 2 épisodes de moins.
Ouais, et
Il y
puis
en a que
surtout,
10, mais
la
c'est vrai.
narration n'est
Ouais.
pas la même. On n'a pas l'impression d'avoir, comme tu dis, on n'a pas l'impression d'avoir lu avec Jonah Hex. On a l'impression d'avoir lu une dizaine, une douzaine
Ben
d'épisodes.
moi c'est vrai que je me le suis fait quasiment one shot ce tome. Ouais, j'avais lu je crois les 2 premiers épisodes un soir et puis j'avais fini le lendemain. Ben, c'est vrai que ça prend pas énormément de temps à lire. C'est vraiment rapide.
Bon, en tout cas, c'est toujours style agence touriste.
Ah ouais, ben, bien sûr.
Et si vous aimez bien ce style-là, si vous aimez bien les films d'action bien musclés avec où ça pète de partout, eh ben alors là, franchement, The Loser, c'est un incontournable hein,
Par
dans ce
contre,
domaine.
bon, la piste de Max, il se rapproche réellement de Max, hein, et de toute façon, on sent bien qu'on approche de la fin petit à petit.
Ah oui, bah de toute façon, bah la fin, c'est pour bientôt. Plus que 10 épisodes, donc.
Mais par contre, moi, peut-être le petit reproche que j'aurais à faire sur ces épisodes-là, c'est qu'on met moins l'accent sur l'équipe et on met beaucoup plus l'accent sur Clay. On sent que Clay veut se venger.
Ouais.
C'est vraiment Clay qui est mis en avant et bon, on voit Jensen quand même un petit peu, on voit Cougar, on voit Pooch, mais on les voit pas autant que je trouve dans le premier tome, par exemple.
Et pourquoi? Parce que c'est la
Ben.
clé de l'énigme.
Oh là là.
Que
Oh là là. Mais je crois que
fait
sur
plus
ces.
marrer, c'est ta réaction. C'est ta réaction complètement désespérée. Je pense que là.
Mais je crois qu'on va terminer sur ça, hein.
Oh oui, je crois que ce serait tellement beau de terminer là-dessus.
Voilà, c'est franchement bon. Si vous avez aimé le premier, franchement vous aimerez. Si le premier vous a pas forcément plu, je sais pas si ça vaut le coup de continuer. Il y a les
Ouais, non,
origines qui sont
ça peut pas
vraiment.
rattraper le tir là. De toute façon, on reste vraiment dans le même trip. Mais
Honnêtement, l'arc des origines est vraiment très bon. Mais je sais pas si ça vaudra l'achat si vous n'avez pas forcément aimé le premier.
bon, en tout cas,
Surtout que c'est cher quand même.
il est clair qu'on en apprend beaucoup plus. Il y a vraiment plus de révélations. Dans le premier, on était un petit peu dans la découverte et finalement l'histoire bah, tenait à rien quoi sur le premier volume. Donc là vraiment là ça prend corps et bon on sent quand même qu'on arrive vers la fin de toute façon.
Ah bah oui, ils se rapprochent réellement de Max, là. Ils sont vraiment pas loin de lui. Vu comment ça a avancé dans les 10 épisodes qu'on a lus là, bon, pour les 10 derniers, on imagine très bien le rythme que ça va être.
Voilà.
Donc en tout cas, pour moi, c'est toujours une très très bonne lecture et bah, j'ai hâte de lire le dernier tome.
Ah moi aussi, ouais, tout à fait. Quand j'ai terminé ce volume-là, j'avais qu'une envie, c'est de. Quand même, voilà, il y a des intrigues donc qui demandent à être. Enfin, on est impatient d'en connaître les résolutions. Je n'en dis pas plus puisque effectivement, faut pas que je spoil.
Oui, surtout que là, donner une info, ça casse un
Ah
peu
oui,
l'ambiance, quoi.
voilà, c'est pas possible.
Bien.
On va conclure alors, je
Bah oui,
pense.
voilà, c'est la fin de notre 34e épisode.
Bon, c'est même la fin de tout là, je pense, avec ce que je viens de balancer.
Bah, Donc, bah, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour les débuts de le dé enfin, les premières sorties du mois de juillet.
Oui.
Bah, comme on fait maintenant, on va faire qu'une sélection, hein, on va pas traiter tout le kiosque. On éliminera les moins bons.
Voilà, les maillons faibles seront sortis.
Voilà, oui, à peu près, c'est un peu ça, oui, effectivement. Donc, comme toujours, vous pouvez laisser vos commentaires pour réagir au podcast
À mes
ou même à
blagues.
autre chose. Ah, oui, aux blagues de Benny,
Si vous êtes outré par mes blagues, faites-le savoir et
oui.
surtout envoyez-nous des blagues par mail, comme ça on pourra les lire à l'antenne en faisant semblant que c'est nous qui les sortons. On est devenus drôles, qu'on a fait des efforts.
Voilà, au secours. Bien, donc bah c'est vraiment la fin cette fois-ci. Donc comme d'habitude, vous nous laissez des commentaires, vous nous envoyez des mails à l'adresse podcast@comiccity. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes pour récupérer tous les podcasts. Vous avez de toute façon tous les liens sur le site aussi. Et bah on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour le Comic City numéro 35. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.
Ciao.